Courbons la tête. Pendant que nos têtes sont inclinées et nos cœurs aussi, je me demande combien aimeraient qu'on pense à eux dans la prière. Voulez-vous simplement lever la main pour dire « Seigneur, souviens-toi de moi, ô Seigneur ». Il y a beaucoup de requêtes ici, ces mouchoirs qui ont été posés sur la chair. Cher Père Céleste, nous sommes de nouveau assemblés sous ce toit ce soir, en ce lieu où tu nous as rencontrés tant de fois et où tu nous as exprimé ton amour. Et nous, de même, nous essayons à notre humble façon de t'exprimer notre amour et notre gratitude pour ce que tu as fait pour nous. Et ce soir, nous venons de nouveau, Seigneur, comme un peuple qui a des besoins, car nous avons constamment besoin de toi. Et tant que nous serons ici sur terre, nous savons que ce sera notre cri, car nous sommes dans une bataille. Et nous, la bataille fait rage. Et tu l'as promis, tu as dit que l'ennemi serait comme un lion rugissant. Il est déchaîné parmi les gens, c'est ce que nous voyons partout, comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer tout ce qu'il peut, parce qu'il sait que son temps est court. Mais nous avons un Père qui prend soin de ses enfants. Et c'est auprès de toi que nous nous réfugions avec nos requêtes ce soir, Seigneur. Nous te prions de les exaucer. Et ces mouchoirs qui ont été posés ici, Père, indiquent qu'il y a des malades, quelque part dans le pays, qui font appel à toi, qui ont besoin de toi, et qui croient en toi, puisqu'ils ont exercé leur foi en envoyant ces mouchoirs ici. Ô Dieu, accorde à chacun d'eux d'être guéri. Il y a quelques instants, là-bas, dans la pièce, Seigneur, nous avons vu ta formidable puissance redonner une mémoire parfaite à un garçon qui était perdu. Maintes et maintes fois, nous avons vu ta grande puissance chasser la maladie et révéler le secret du cœur, dévoiler des choses aux gens, les ramener dans le droit chemin. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que cela dépasse tout ce qu'un homme peut faire. Cela dépasse toute la connaissance que nous avons, de voir que tu peux même en révéler la cause, ce qui a provoqué cela et ce qu'il en est. Ça, c'est toi, Père, et nous le savons. La parole sonde le cœur, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alors nous te remercions pour cela. Et maintenant, Seigneur, nous croyons que les gens, en ce moment, la tête inclinée, ils réfléchissent à ces choses, et c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur parler. Accorde que chacune de leurs requêtes soit exaucée. Sauve ceux qui peuvent être sauvés ce soir, Seigneur. Les perdus, puissent-ils entrer et être sauvés? Nous sommes si reconnaissants de voir là cette énorme pile de vêtements mouillés, sachant que le tombeau a été ouvert et que, pour bon nombre de ces gens, le péché du vieil homme a été enseveli. Je te remercie pour cela, Père. Puissent-ils marcher en nouveauté de vie pour le reste de leurs jours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il exauce la requête que vous aviez dans votre cœur. Bon, je crois que Billy m'a dit que frère Wheeler avait un petit bébé. C'est bien ça? Est-ce que je fais erreur là-dessus, qu'il devait le faire consacrer, ou quelque chose comme ça, une consécration? Très bien. Si vous voulez bien les amener maintenant, nous serons heureux que vous le fassiez. Si les anciens veulent bien s'avancer, imposez les mains à ces petits pour un service de consécration. Et nous tâcherons d'être brefs. Nous voulons que ces petits s'avancent, ceux qui désirent venir au Seigneur Jésus, qui désirent lui amener ces petits joyaux que Dieu leur a donnés. Nous essayons toujours de leur préparer la voie, parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Ma mère me disait autrefois, « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. » C'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais nous savons qui tient demain entre ses mains. C'est l'essentiel. Nous savons qui tient demain entre ses mains. Frère Wheeler, que le Seigneur Dieu te bénisse. Et voici Sœur Wheeler. Je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Et un grand privilège pour moi, et à ma connaissance, je crois bien que c'est la première fois que je vous rencontre. Et voilà votre bébé. Comment s'appelle-t-il? Carlena Rebecca. Eh bien, quelle belle petite fille, toute jolie. Alors, la petite Carlena Rebecca Wheeler. Frère Wheeler est l'un de nos diacres ici à l'église, et Dieu a béni leur union en leur donnant cette petite. Je crois que vous avez déjà, à ma connaissance, deux autres filles, n'est-ce pas? Trois autres filles. Je crois savoir que ce sont de vraies dames. Je prie donc que Dieu fasse de Rebecca une réplique des autres. Voyez, alors vous serez tous satisfaits de ça, n'est-ce pas? Effectivement, parce que ce sont des enfants très gentils. Je ne sais pas si elle va me laisser la prendre dans mes bras, mais si elle ne veut pas, nous lui imposerons les mains. Voudrais-tu venir ici, vers moi, Rebecca? Tu veux bien que je te prenne? C'est très bien. Quelle jolie petite fille. Maintenant, courbons la tête. Bienveillant Père Céleste, alors que nous nous tenons ici ce soir devant ce diacre, il remplit vraiment une fonction remarquable, car un diacre doit être irréprochable, mari d'une seule femme, il doit bien diriger sa famille. Puisque, s'il ne sait pas diriger sa famille, comment pourrait-il diriger la maison de Dieu? Nous te remercions de ce que ce frère remplit ses conditions, et nous voyons qu'en lui se trouve l'Esprit de Dieu. Et voilà qu'il amène sa petite fille ici pour qu'elle soit consacrée. Tu leur as confié la responsabilité de l'élever. Ô Dieu, nous sommes très reconnaissants de pouvoir dire que leur désir, c'est qu'elle soit comme ses autres sœurs. Père, fais qu'il en soit ainsi, et puisse cet enfant vivre et être un instrument puissant à ton service, Père. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous te remettons ce bébé pour une vie de service. Donne-lui la santé et la force, puisse-t-elle avoir une longue vie et, si possible, vivre jusqu'à ce que Jésus vienne. Ainsi, Père, nous croyons qu'ils vont l'élever en l'instruisant selon Christ. Et nous te remettons sa vie pour une vie de service. Amen. Que Dieu te bénisse, Rebecca. Et que Dieu vous bénisse, frère Wheeler et sœur Wheeler. Que le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Eh bien, voici une autre petite fille qui affiche un très grand sourire. Et comment s'appelle-t-elle? Rhonda Renee Coates. C'est bien ça? Avez-vous des liens de parenté avec Jesse et les autres Jesse Coates? J'ai connu certains Coates ici en ville. Je les connaissais vraiment bien. Et ce sont mes amis depuis longtemps. Rhonda Renee. Je me demande si tu accepteras de venir vers moi, Rhonda. Je te rendrai tout de suite à ta maman, dès qu'on t'aura donné au Seigneur Jésus. Elle est vraiment mignonne. Maintenant, courbons la tête. Père Céleste, alors que ton ancien et moi sommes là, ensemble, ce soir, en accord et en harmonie avec l'Évangile, cette mère t'amène cette petite Rhonda Renee pour qu'elle te soit consacrée. Tu la lui as confiée afin qu'elle en prenne soin. La première chose qu'elle peut faire en retour, c'est te la présenter. Comme Job l'a dit autrefois, c'est le Seigneur qui donne ces choses. Et nous te prions, ô Dieu, de la garder en sécurité jusqu'à l'heure où tu nous enlèveras. Et ô Dieu, accorde-lui de vivre une vraie vie chrétienne et d'être en grandissant un exemple pour les autres. Bénis son foyer, qu'il soit entièrement consacré à ton service par des cœurs sincères. Et maintenant, ô Dieu, nous te remettons la petite Rhonda Renee Coates, au nom de Jésus-Christ, pour une vie de service. Amen. Très agréable. Que Dieu vous bénisse, sœur. Bonjour. Robert Paul Shane, Shemel. Eh bien, tu es encore tout jeune. Je ne crois pas que tu vas me faire des histoires pour ça. Ne ris pas de moi comme ça. Regardez ici, si vous voulez voir quelque chose d'amusant. Robert Paul, quel beau nom. Courbons la tête. Ô Dieu, alors que cette jeune fille qui pour nous n'est qu'une enfant, s'avance ici. Et elle te donne son petit garçon, ô Dieu, pour une vie de service. Il est le fruit et le résultat de leur union. Je prie, ô Dieu, alors que ton ancien et moi imposons les mains à ce petit, que sa vie te soit consacrée. Seigneur, s'il y a un lendemain, accorde-lui de porter le message que ses parents écoutent, ô Dieu, accorde-le. Et je te prie de bénir leur foyer, puisse-il élever cet enfant en l'instruisant selon Dieu, et qu'il soit un disciple rempli d'amour pour toi. Nous te le remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, c'est vraiment un très gentil garçon. Voilà tout. Oui, monsieur. On ne pourrait pas demander plus charmant, n'est-ce pas? Rien dans ce monde ne pourrait être plus charmant, c'est vrai, que ce petit. Tout sourire. Charmant, n'est-ce pas? Voilà bien un moment où ma femme envie mon travail. Quand je tiens ces bébés, elle aime les tenir. Moi aussi. Mais j'ai toujours peur de les casser. Ils sont si, vous savez, si mignons. Ils ont l'air si fragiles. Mais vous savez, en réalité, ils sont plus résistants que nous. Bon, je vous ai dit que j'allais terminer. Eh bien, il ne me reste plus que 35 minutes. Je vais devoir me dépêcher, n'est-ce pas? Voyons un peu. Ce n'est pas mon intention de mal évaluer quelque chose ou de dire quelque chose qui soit faux. Mais je vais faire de grands efforts parce que, vous savez, une fois arrivés très loin dans le chemin, nous ne sommes plus aussi actifs qu'auparavant. Vous savez, les kilomètres sont parfois difficiles et 2 ou 3 services par jour, eh bien, et c'est en grande partie à cause de ces visions. Prêcher, ça ne m'affecte pas. Oh, je peux me tenir ici toute la journée. Ça ne me dérange pas. Mais seulement ces visions. Et lorsque les gens sont vus en entretien, il leur faut cela à tout prix. Voyez, c'est pour cela qu'ils viennent. C'est quelque chose qui ne peut pas se régler par une simple imposition des mains. Il faut connaître la racine, l'origine, la cause de cela, ce qui l'a provoqué, et puis ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est pour cela qu'ils viennent. Bon, la série de réunions commencera après-demain soir, ou non, pardon, mercredi soir, à Shreveport, en Louisiane. Et si certains d'entre vous ont des amis dans cette région, eh bien, dites-leur de venir se joindre à nous, au Life Tabernacle. Je pense que c'est là que ça va commencer, à moins que ça se passe en face, dans la salle de spectacle, s'ils réussissent à l'obtenir, ce qui donnerait un peu plus de place assise. Mais il y a là un balcon à l'étage, la grande salle principale, et encore un étage en dessous. Alors, je ne connais pas exactement le nombre de places assises, mais c'est, si ça se complique trop, peut-être nous pourrons obtenir la salle de spectacle d'en face, qui, là-bas non plus, je ne sais pas combien il y a de places assises. J'y ai déjà tenu des réunions, mais je ne me rappelle plus. Il s'agit là d'une convention annuelle. Il y a 3 ans, j'étais là-bas et nous avons commencé un réveil au nom du Seigneur. Et depuis, il n'a jamais pris fin. Il se poursuit constamment, constamment. Tous les jours, les gens viennent, reçoivent le salut, se font baptiser. Ils continuent à marcher avec le Seigneur. Comme ça, les ministres et tout se joignent à nous. Et nous, tant qu'il se poursuit comme ça et que je suis encore ici, je désire y aller régulièrement, leur apporter quelques mots et continuer comme ça. Donc, ça débutera mercredi pour se terminer dimanche. Le petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens sera... J'ai oublié le nom de cet hôtel. Je crois que c'est... Ça s'appelle... Ils vous le diront quand vous arriverez là-bas. C'est le petit déjeuner des hommes d'affaires. J'ai passé des moments merveilleux là-bas. Je m'adresse à vous, les hommes d'affaires ici présents. La dernière fois que j'étais là-bas, le Seigneur a sauvé un rabbin de cette ville. Et oh, je ne sais pas trop tout ce qui s'est passé. C'était des moments merveilleux dans le Seigneur là-bas. J'y ai prêché sur l'alliance du sang. Alors nous, c'est ce que les Juifs connaissent, le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, voyez-vous. Maintenant, passons directement à la parole, et je vais faire de mon mieux pour tenir ma parole envers vous. Et maintenant, eh bien, si le Seigneur le veut, dimanche après Noël, si vous êtes en vacances et que vous passez par ici, qu'il n'y a pas de verglas et tout ça, eh bien, si vous êtes dans le coin, eh bien, passez-nous voir. Nous prévoyons avoir un service ici le dimanche matin, le dimanche après Noël. Quelle sera la date? Le 29, et c'est le dimanche après Noël, le 29. Maintenant, s'il arrivait quelque chose et que nous, quelque chose qui ferait que nous ne soyons pas, que nous ne puissions pas être ici, nous ne connaissons pas l'avenir, vous savez. Mais s'il arrive quelque chose, eh bien, vous qui n'êtes pas de la ville et qui fréquentez ce lieu, comme les gens qui viennent de Memphis, je voulais entendre frère Angren chanter « Que tu es grand » et je ne... Est-il ici ce soir? Alors, et j'ai toujours tant de choses à faire que je n'arrive pas à toutes les faire. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Bon, maintenant prenons les Écritures pour une petite lecture dans l'Écriture. En effet, si mes paroles faillissent, ceci ne faillira pas. Et Dieu vous bénira d'être resté ici, simplement parce que vous avez écouté sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, comme je réfléchissais, pendant que vous prenez Jean, chapitre 6, nous lirons à partir du verset 60 jusqu'au verset 71 inclus. Jean 6, 60. Donc, je réfléchissais en regardant par la fenêtre il n'y a pas longtemps. Je regardais le coucher du soleil et je voyais que toute la nature a une loi. Et quand vient l'hiver, automatiquement, la loi de la nature fait descendre la sève dans les racines de l'arbre. Elle l'ensevelit, comme Job l'a dit. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Et donc, voilà, si tu voulais me cacher, voyez-vous, il avait vu la nature, l'arbre, la vie qui descend dans les racines, frère Way, et j'y resterai jusqu'à ce que la colère soit passée. Puis, tu m'appellerais et me fixerais un terme, voyez. La nature a une loi. Il y a une loi de la nature. Elle est absolument incontournable. C'est une loi de la nature. Et il y a aussi une loi de l'esprit. Et celle-là également est incontournable. Je parlais à un couple cet après-midi sur le fait qu'il est impossible d'anéantir totalement quoi que ce soit. Les êtres humains ne peuvent rien anéantir. Ils peuvent démolir, mais pas anéantir. Et quelqu'un a dit, « Mais si on prend un bout de papier et qu'on le brûle, est-ce que ça l'anéantit ? » Non, monsieur, la chaleur du feu, ça ne fait qu'en dissocier les éléments chimiques. Il retourne directement à l'état de gaz. Ce qu'il était au départ, on ne peut rien anéantir. Et si le monde subsistait assez longtemps pour ça, ces mêmes gaz et ces éléments chimiques qu'il y avait dans ce papier pourraient former de nouveau un bout de papier. C'est exact. On ne peut rien anéantir. Exactement. Dieu, alors, s'il y a une résurrection pour toute chose, un retour, et que rien n'est anéanti, il y a une résurrection des justes, oui, et nous devons forcément revenir. Un point, c'est tout. Rien à faire. Que vous soyez entièrement brûlé, que vous soyez noyé, quel que soit le lieu où cela se produit, peu importe, ces choses ne peuvent pas anéantir. Souvenez-vous simplement que chaque partie de votre être était ici quand Dieu a créé le monde par la parole. C'est à ce moment-là qu'il a placé votre corps ici. Et rien ne peut l'enlever d'ici excepté Dieu. C'est entre ses mains que tout cela revient, voyez. Et c'est lui, le Créateur. C'est lui qui a fait la promesse. Alors nous sommes certains qu'il y a une vie éternelle. Et nous avons maintenant dans notre cœur l'assurance que nous avons maintenant même la vie à perpétuité. Maintenant même, en nous, la vie éternelle qui ne peut pas mourir. Très bien, Jean 6. Commençons maintenant au chapitre 6 de Jean, à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Alors Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, est-ce l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, c'est-à-dire lui-même, et vie. Qu'a-t-il dit? Je suis la vérité, la vie. Son esprit, son vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Cette parole est dure, voyez, ils ne pouvaient pas l'accepter. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Car tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru que, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh ! Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Maintenant, si je devais intituler le sujet de ce soir et faire de mon mieux pour donner le maximum pendant cette demi-heure, j'aimerais parler de trois sortes de croyants. Et j'ai souvent fait cette déclaration. Alors je me suis dit, eh bien, je crois que, pour une fois, je vais prendre ça comme sujet de prédication cet après-midi. C'est ce que je me suis dit. Premièrement, il y a les croyants, puis les soi-disant croyants et les incroyants. Bon, ça, c'est tout un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, ce groupe est toujours réuni. Partout où les gens se réunissent, nous retrouvons ce groupe. Nous les y avons toujours retrouvés et nous les aurons sans doute toujours jusqu'à la venue du Seigneur. Et ce soir, alors que je parlerai de ces trois groupes, je voudrais que nous considérions ce tableau pour voir de quel groupe nous faisons partie. Maintenant, souvenez-vous, je m'adresse ici à peut-être cette église qui est encore pleine à craquer ce soir. Les gens sont entassés partout, le long des murs et dans les allées, mais je m'adresse aussi au monde entier. Voyez, ces bondes circulent dans toutes les parties du monde grâce au ministère des bondes. Bon, donc, je veux parler des trois types de croyants, là. Maintenant, souvenez-vous, les croyants. Mon sujet porte sur les croyants. L'un est un véritable croyant, l'autre est un soi-disant croyant et l'autre un incroyant. Voyez? Maintenant, le premier groupe dont nous voulons parler, c'est celui du croyant. En effet, je pense qu'il faut vraiment commencer par celui-là, parce que c'est lui qui croit réellement. Donc, qui croit comme les disciples croyaient ici. Nous allons prendre ce passage de l'Écriture comme exemple. Donc, en premier, il y a les croyants, les véritables croyants. Et la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est Christ, voyez, les croyants. Or, avez-vous remarqué la grande déclaration que ce croyant a faite? Or, le croyant n'a pas à être quelqu'un d'intelligent, selon l'idée que le monde se fait de l'intelligence. Il n'a pas à être quelqu'un d'instruit, selon l'idée de ces gens qui cherchent à dire que vous devez l'être. Mais vous n'avez pas à l'être. Vous, cet homme qui a fait cette déclaration, la Bible elle-même dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Pierre, il n'était pas vraiment considéré comme quelqu'un d'intelligent. Dans Ésaïe 35, il est dit, « Il y aura une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Nul impur n'y passera. » Je parlais à l'un des diacres cet après-midi. Nous parlions de ces ponts qui enjambent et de ce nouveau pont. J'ai dit, « Il y a beaucoup de structures qui enjambent les étendues d'eau, les bayous aujourd'hui. » Et j'ai dit, « Mais il y a une grande structure qui s'étend de la terre à la gloire. » On l'appelle le chemin du roi. Nul impur n'y passera. C'est vrai. C'est une route qui a été construite par Christ, notre Seigneur. Cette structure qui s'étend de cette terre à un autre pays. Et l'impur n'y passe pas. Pierre, cette personne sans instruction de qui se tenait tout près, alors qu'il avait vu la parole du jour, pleinement confirmé. Dieu qui avait promis qu'en ce jour-là apparaîtrait quelqu'un qui serait un prophète au milieu d'eux. Simon avait eu du mal à y croire parce qu'il y avait eu beaucoup d'imitations de cela. Mais quand il a vu la parole authentique de cet âge-là dévoilée et qu'il a entendu celui-ci l'identifier clairement, il a alors été pleinement convaincu de qui il était. Et c'est lui qui a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ?» Quand la question lui a été posée, quand, parmi les foules, la séparation se faisait entre les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants, qui étaient tous les trois présents dans cette même multitude. Les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants se trouvaient ici même dans ce chapitre. Et le fait que Jésus avait prononcé ces paroles de cette façon, c'est ce qui avait divisé son assemblée. mais c'est ce qu'il fallait faire. Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades. Mais lorsqu'il était question de la doctrine et de la prophétie, voilà ce qui a séparé la balle du blé. Voyez, la balle ne fait qu'envelopper le blé. Elle n'est pas le blé. Elle ne peut pas être utilisée. Il n'y a rien en elle. Aucune vie en elle. Elle est l'enveloppe et elle ne peut pas rester avec le blé. Elle n'héritera pas avec le blé. Et alors il faut, nous parlons là du grain, du cœur, le grain de blé. Maintenant, remarquez, Pierre était convaincu que c'était là le Messie. Alors, ce que tous les autres pouvaient dire, ça ne changeait rien. Ce que les sacrificateurs disaient, ça ne changeait rien. Ce que l'Église disait pour Simon-Pierre, ça n'avait pas d'importance. Il était lui-même convaincu. Jésus lui a dit, quelque part où il avait demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Les uns ont dit que tu es un prophète, les autres ont dit que tu es l'un des anciens prophètes ressuscités, et que tu es Moïse ou Élie ou quelqu'un d'autre. Il a dit, « C'est à vous que j'ai posé cette question. Vous, qu'en pensez-vous ? » Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un livre, ou dans un credo, ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà un véritable croyant. La révélation spirituelle de la parole. » Voyez, et sur, tu es Simon, et sur ce roc, ta révélation de qui je suis, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voyez, pas étonnant que Simon ait dit, à qui irions-nous? Jésus s'est retourné et a dit, voulez-vous aussi vous en aller? Ils ont répondu, Seigneur, à qui, où irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie, toi seul. En effet, non seulement il avait les paroles de la vie, mais il était la parole de la vie. Voyez, il était la parole de la vie. Et Simon avait parfaitement reconnu cela. Et une fois qu'il avait reconnu cela, c'est ce qui l'a fait tenir bon, parce qu'il lui avait été révélé qu'il était cette parole vivante. Voilà le véritable croyant. Quand c'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui était persuadé par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre, mais quand c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé la parole elle-même et que vous voyez la parole rendue claire, confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient et entre dans cet âge pour la parole de cet âge et il la manifeste. Comment un homme aurait-il pu ne pas croire Luther s'il avait su cela? Luther était un réformateur. L'esprit de l'homme avait paru là pour amener une réforme. Wesley, même chose. Il fallait que les gens y croient. Voyez, c'était là le message à l'âge de l'Église. C'était exactement ce qui devait arriver. C'était ce qui devait se produire. Il fallait y croire. Et nous voilà arrivés à l'âge de Laodicée. Et on nous enseigne que dans l'âge de Laodicée, Christ a été expulsé de son Église, même qu'il frappait à la porte, cherchant à y rentrer. Alors, quand nous voyons cela arriver, nous savons dans quel âge nous vivons. Et là, nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train de se terminer. Un jour, la dernière ligne y sera écrite. Elle sera définitivement fermée. Alors, il n'y aura plus de temps. Une grande pièce de théâtre se met en place. Et les anges se tiennent là, sur l'étendue des cieux, ils observent. Vous savez ce qu'est une pièce de théâtre. Les acteurs sont prêts. On les voit en train de jouer leur rôle. On voit le malin en train de jouer son rôle. On voit le méchant de la pièce qui est entré en scène, qui emploie ses ruses pour séduire. Mais on voit aussi l'Église enlevée se préparer. C'est une scène extraordinaire. On voit la présence de Dieu confirmer, exécuter cette grande pièce de théâtre qui avait été annoncée d'avance ici dans cette Bible. Quelle époque à vivre, l'époque la plus glorieuse. Les hommes de tous les âges ont ardemment désiré voir cette époque. Les prophètes d'antan ont ardemment désiré voir cette heure, mais ils n'ont pas eu ce privilège. Donc, c'était là un croyant. En effet, lui, il a vu ce qu'il en était, il l'a cru. Nous sommes pleinement convaincus que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour aujourd'hui, et nous le croyons. Voyez, c'était là un vrai croyant. Prenons quelques autres croyants. Faisons vite avant de passer au personnage suivant. Prenons le prophète Noé. Lui qui, peut-être, était fermier. C'est probablement ce qu'il était à cette époque-là, un fermier. Mais quand les moqueurs et les gens religieux de l'époque, l'Église était arrivée à un niveau très bas, et Dieu a parlé à Noé. Il a dit à Noé de construire une arche. Noé n'a jamais contesté avec Dieu à ce sujet. Il y a cru. Il a cru que c'était la parole de Dieu. Et il s'est tout de suite mis au travail afin de tout préparer. Voilà le vrai croyant. Il ne fait pas d'histoire. Une fois qu'on est entièrement convaincu, c'est réglé. C'est toujours pareil, quelle que soit la personne. La foi, le moyen. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous pouvez tenir ferme, là, peu importe ce que le médecin déclare qui ne va pas chez vous. Bon, cet homme vous a donné le diagnostic de votre état et probablement qu'il sait très bien de quoi il parle, selon ce que ses instruments et sa connaissance lui permettent de savoir. Mais le hic, c'est qu'il déclare qu'il n'y a qu'une seule issue, la mort. Mais vous priez, et là-bas, dans le futur, vous voyez un homme ou une femme qui se tient là, debout, en bonne santé. Oui, c'est réglé. C'est vraiment réglé. Vous entrerez directement là-dedans, aussi sûr que 2 et 2 font 4, parce que vous le croyez. Dieu l'a prononcé. Vous savez que c'est vrai. Comme cette petite femme qui a craché ce cancer. Voyez, il n'y avait aucun doute dans son esprit que ça allait arriver. Le cancer était mort, alors il a lâché prise et il est parti. Voyez, voilà, c'est ça, vous le croyez. Comme ce père qui a amené son petit garçon là-bas tout à l'heure. Il est ici, quelque part dans le bâtiment en ce moment. Le petit garçon avait fait une chute et il avait perdu la mémoire. Il ne se souvenait de rien. Quelques instants après la prière, je lui ai demandé comment il s'appelait. Il me l'a dit, il m'a donné son âge. Il était là, tout aussi normal que n'importe quel autre garçon. Voyez, il croit et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui doit arriver. Et Noé a cru Dieu. Noé était considéré comme un croyant. Daniel, quand l'Église était en captivité là-bas, à Babylone, Daniel a cru Dieu. Peu importe combien on pouvait dire, nous allons faire une proclamation. Personne ne devra prier un autre Dieu, excepté cette statue là-bas, qui représentait cet homme saint, ou quoi que ce soit d'autre. Daniel n'a pas du tout prêté attention à ça. Il avait entendu Dieu, puisqu'il était prophète, et que la parole était venue à lui. Et lors de la dédicace du temple, il avait été dit, « Si un homme est en difficulté en quelque pays que ce soit, et s'il tourne les regards vers le lieu saint et prie, exauce-le des cieux. » Et Daniel croyait Dieu. Il était un véritable croyant, et même les lions n'ont pas pu le manger. C'est vrai, voyez, il était un croyant. Il avait quelque chose de vrai et d'authentique. Il était un croyant. David, un autre croyant, un jeune garçon rebuté. Daniel ne s'est pas rangé du côté de l'Église moderne. Noé non plus ne s'est pas rangé du côté de l'Église moderne. Pas du tout. C'était des croyants. Pour eux, c'est ce que Dieu avait dit qui était la vérité. Peu importait ce que le monde moderne disait, eux, ils croyaient que c'est ce que Dieu avait dit qui était la vérité. Voilà de véritables croyants. Tout comme Pierre et les apôtres qui croyaient qu'il avait la parole de la vie et qu'il était la parole de la vie. Je crois la même chose aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas cela, qui y est contraire, c'est à l'opposé. Ça n'existe pas, c'est la mort. La seule parole de vie, c'est ceci. Et Christ est la parole. Maintenant, David, un garçon au teint rosé. D'abord, il était probablement le souffre-douleur de ses frères, parce que c'était un petit bout d'homme. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il était trop petit et tout maigre. Mais malgré tout, il s'est présenté là en tant que croyant. Lorsqu'il était là-bas, dans le désert, à faire paître quelques douzaines de brebis que son père avait confiées à sa garde, armées d'une fronde, dans une région peuplée de lions, d'ours, de loups et tout, David s'était mis à considérer cette fraîcheur des verts pâturages. Il savait combien il était agréable pour une brebis de se mettre à l'ombre et de se reposer à l'abri du soleil brûlant. Il savait combien il était agréable de boire une bonne gorgée d'eau fraîche. Aussi avait-il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, « Mon âme a soif de toi, ô Dieu !» Voyez, il s'était écrié, il avait prié. Et un jour, il y avait eu urgence. Un lion était venu enlever une de ses brebis. Il s'est dit, « Le Dieu qui m'a créé est supérieur au lion. » Voyez, il avait pris sa fronde et, avec une petite pierre dans sa fronde, il avait terrassé le lion. Bon, quelqu'un qui a déjà vu un lion, un de ces lions d'Afrique, de ces gros lions à la crinière laineuse qu'on trouve en Palestine et en Asie, c'est à quoi peut ressembler une de ces bêtes? Alors qu'on aurait du mal à le terrasser avec un magnum de calibre 300. Lui, il l'avait terrassé avec une pierre. Lorsque le lion s'était relevé pour le poursuivre, David l'avait saisi par la barbe et l'avait tué. C'est la raison pour laquelle il savait de quoi il parlait. Il avait vécu une expérience. Il avait mis Dieu à l'épreuve au sujet de sa parole. Et il n'a pas eu peur de Goliath parce que c'était un incirconcis. Ce n'était pas un croyant du tout. Goliath s'est avancé là, il l'a maudit au nom de ses dieux. Et Goliath était beaucoup plus imposant que lui, un grand gaillard qui avait des doigts de 35 cm. Eh bien, ses doigts devaient être longs comme ça, voyez, des doigts de 35 cm. Un guerrier. Sans doute que la cuirasse à écailles, celle qu'il portait, devait peser 135 kg, sinon plus, voyez, celle qu'il portait. Un casque et un grand, peut-être le métal avait-il 3 cm d'épaisseur. Un grand géant comme ça, énorme, qui s'avançait armé d'une aiguille de tisserand qui, dit-on, mesurait environ 6 mètres. Il avait une lance de 6 mètres à la main. Alors comment est-ce que quelqu'un, un tel homme, était capable de se tenir là et en brocher une douzaine d'hommes, puis les projeter au fur et à mesure, comme ça? Quel adversaire! Et voici qu'il était là, à fanfaronner, à se vanter. Quand leur chance était pour ainsi dire nulle, voyez-vous, il a dit qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Il a dit que quelqu'un vienne donc me combattre, et si c'est moi qui l'emporte, alors vous me servirez, voilà. Mais si c'est vous qui l'emportez, alors nous vous servirons. Voyez, quand le diable croit avoir le dessus sur vous, voyez, c'est là qu'il aime se vanter. Mais il s'est trouvé devant le mauvais gars. Il s'est trouvé devant le plus petit homme du pays, un jeune homme aux épaules tombantes et au teint rosé. Il a dit, « Allez-vous me dire que vous, l'armée du Dieu vivant, vous allez, sans réagir, laisser ce Philistin incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant ?» Eh bien, ça l'avait choqué. Pourquoi? C'était un croyant. Les autres, c'était des soi-disant croyants. Voyez, lui, c'était un véritable croyant. Il a dit, « Si vous avez peur, moi, j'irai le combattre. » Voyez, quel défi pour un bout d'homme comme lui. C'était donc un croyant. Et il a fait précisément ce qu'il savait que Dieu ferait. Quand ce Philistin incirconcis l'a maudit au nom de ses dieux, il a dit, « Suis-je un chien, un petit bonhomme, un avorton, viens m'affronter ?» Eh bien, a-t-il dit, « Je vais t'embrocher du bout de ma lance, te suspendre là, sur l'arbre, et laisser les oiseaux picorer ta chair. » Oh là là, oh quel type exécrable! David a dit, « Tu marches contre moi avec une épée et une lance avec des armes. Tu marches contre moi en tant que Philistin. Et moi, je marche contre toi sans épée, sans lance, sans armes, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Voilà, ça, c'est un croyant. Voilà sa forteresse. Voilà son bouclier. Voilà sa haute retraite. Amen. Voilà ce qui devrait être la haute retraite de l'Église. Voilà la haute retraite de tout croyant. Peu importe ce qui arrive, ce que dit le monde ou autre, votre haute retraite, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est tout. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Voilà notre haute retraite, Jésus-Christ. Remarquez, et quand c'est arrivé, nous savons ce qui s'est passé. À David, il ne restait qu'un seul petit endroit où frapper, après que l'autre a rabattu sa visière. Le seul endroit où le frapper, c'était juste ici, sur le front. Et avant même qu'il soit arrivé près du géant, Dieu a dirigé le coup fatal et il a tué le géant. Voyez, c'est Dieu qui l'a fait. Nous voyons là que c'était un croyant. Et un autre croyant, c'était Abraham, qui était de Chaldéen, de la ville d'Ur. Il lui était demandé de faire quelque chose et de croire quelque chose qui était tout à fait impossible physiquement. Mais il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, dit Romains 4. Au contraire, il fut fortifié, donnant la louange à Dieu. Abraham, âgé de 75 ans, et sa femme, âgée de 65 ans, vivaient ensemble depuis qu'ils étaient des jeunes gens. C'était sa demi-sœur, un jeune homme et une jeune fille. Or, ils avaient vécu ensemble sans avoir jamais eu d'enfant. Et Dieu a dit à Abraham, « Sépare-toi des incroyants. » Dieu exige toujours une séparation. « Sépare-toi des incroyants et marche avec moi. » Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Je l'ai déjà fait. Et Abraham l'a cru. Ça, c'est un croyant. Comment le feras-tu, Seigneur? Il n'a jamais posé cette question. Dieu avait dit qu'il le ferait. C'était réglé. Après le premier mois, Sarah était toujours, elle était ménopausée. Un changement? Rien du tout. Mais Abraham continuait à y croire. 25 ans plus tard, toujours pas de changement. Mais Abraham continuait à y croire. Ça, c'est un croyant. Ça, ce n'est pas un soi-disant croyant. Ça, c'est un croyant. 25 ans plus tard, Abraham était plus fort qu'au départ. Il crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il, voilà le véritable croyant. Bon, tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion de vous examiner pour voir à quelle catégorie vous appartenez. Or, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, de ces choses impossibles. Qu'arriverait-il si un homme de 75 ans et sa femme de 65 ans allaient voir un médecin et disaient « Nous voulons prendre des dispositions pour l'hospitalisation, nous allons avoir un bébé » et que 25 ans plus tard lui disaient « Docteur, est-ce que vous nous gardez toujours une place à l'hôpital ?» Voyez, voyez, ça vous fait agir d'une drôle de façon. Vos décisions sont bizarres aux yeux du monde. Mais c'est ça, le croyant. Peu importe combien, ça peut avoir l'air étrange. La Bible déclare qu'il avait la pleine conviction que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. C'est à cela que devrait arriver tout croyant cet après-midi. Dieu peut tenir toute parole qu'il a promise. Peu m'importe ce que les dénominations disent, leurs paroles, les jours des miracles sont passés, tout ça, c'est de la télépathie et tout, c'est de la divination. C'est, pour moi, ce qu'ils disent n'a aucune importance. Je continue à croire. Si l'arme à feu est bien focalisée sur la cible, le coup atteindra la cible. Et donc, je crois que si le croyant est bien focalisé sur la parole de Dieu, ce sera la même chose. Le coup atteindra la cible. Si c'est une promesse qui a été faite dans la parole de Dieu, elle s'accomplira de nouveau. J'en ai la pleine conviction. Et là, quand nous voyons que nous sommes dans l'âge où tout cela doit arriver, tout cela doit arriver. Ces choses doivent se produire. C'est pourquoi je crois vraiment que quand l'épouse aura été appelée, élue, positionnée dans le livre de vie, alors il viendra du ciel un bruit et cette épouse sera remplie d'un puissant baptême du Saint-Esprit qui l'enlèvera de la terre par la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe le nombre de données scientifiques, le nombre d'astronautes qu'ils ont engagés et tout ça, et à combien de millions de kilomètres ils peuvent voir, pour moi, tout ça n'a aucune importance. Il y a un ciel, et il y a un véritable Jésus-Christ là-bas, qui viendra sous une forme corporelle pour prendre son Église avec lui. Peu importe combien cela semble être une vieille rengaine, ça reste la vérité. Dieu l'a dit. C'est ce que les croyants croient. Dieu a dit, « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je suis Dieu et je ne change pas. » Amen. Et Dieu est la parole. Et si Dieu ne change pas, comment la parole pourrait-elle changer? Voyez, je suis Dieu et je ne change pas. C'est ce que dit l'Écriture. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et s'il ne peut pas changer, alors il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole immuable. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. Oui, monsieur. Tout au long des âges, Dieu a suscité des corps. Moïse et Ézéchiel et Jérémie et Ésaïe et Élie. Tout au long dans lesquels sa parole venait temporairement. Mais la plénitude de la parole a été manifestée dans cet homme, Jésus-Christ. En effet, il était Dieu, la plénitude de la divinité corporellement. C'est là qu'il a été fait chair. Je crois cela, j'en crois chaque mot. Job, un autre croyant. Parfois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas parfois, chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié éprouvés, formés. Souvenez-vous, les épreuves, les chemins poussiéreux, le soleil brûlant de la persécution, mais avec la loyauté de votre cœur, tout cela martèle le matériau jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer au moule. Les enfants de Dieu sont entièrement constitués de sa parole, car ils sont des modèles vivants. La parole de Dieu vit en eux. Voyez, l'épreuve vient vous secouer, vous faire toucher le fond pour voir quelle position vous prendrez. Elles ont testé, éprouvé chaque fils qui vient à Dieu. Job est passé par ses épreuves et ses tests. Ses enfants lui avaient été ôtés, tout le reste aussi. Les membres de l'Église sont venus, l'ont accusé d'avoir péché en secret et ont essayé de dire toutes sortes de choses contre lui, mais il a refusé d'écouter tout ça. Il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Dieu. Il savait qu'il était inutile que Satan cherche à le tenter. Il savait que c'était le diable. Et tant que Satan lui avait fait croire que sa maladie venait de son Dieu, il avait eu le dessus sur Job. Mais une fois que Job a eu la révélation que ce n'était pas Dieu, ces épreuves qu'il traversait servaient uniquement à former quelque chose en lui. Ça ne venait pas de Dieu, ça venait de Satan. Et c'est pareil aujourd'hui, il essayera de vous dire que ces épreuves et tout, c'est votre Dieu qui cherche à vous punir. Il n'en est rien. Non, monsieur, ça vient de Satan. Et Dieu permet cela pour vous former, pour vous faire voir si vous êtes attaché à cette terre, par les soucis de la terre, ou bien si vos trésors sont dans le ciel. Car là où sont vos trésors, c'est là aussi que vous êtes. C'est vrai, votre cœur est là où sont vos trésors. Quoi qu'éprouvé, Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre, même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps. » Avez-vous remarqué? Les vers de sa peau étaient déjà en lui. Les vers de votre peau sont en vous. Vous êtes dans un cercueil scellé, sans aération ni rien. Mais les vers de votre peau sont déjà là. Ils sont déjà en vous et sont prêts à entrer en fonction à tout moment. Rappelez-vous César qui s'est décomposé en pleine rue, rongé par les vers de sa peau, en pleine rue, les vers de sa propre peau. Ils sont déjà là, prêts, même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps. De ma chair, je verrai Dieu. Amen. On ne peut pas l'anéantir. Même si les vers de votre peau le dévoraient, il reviendra quand même. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est ce que Job a dit. Pourquoi? C'était un croyant. Dans les épreuves, c'était un croyant. Dans la persécution, c'était un croyant. C'était un véritable croyant. Joseph, un autre croyant, il était ce qu'il était. Il ne pouvait rien y faire. Il était prophète. C'est Dieu qui avait fait de lui un prophète. Il ne voulait pas être différent de ses frères, mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Personne ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place, si petite soit-elle. Vous dites, « Je ne suis qu'une ménagère. » Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a si bien coordonné le corps de Christ que personne ne peut prendre votre place. J'aimerais bien prendre la place de Billy Graham. On aimerait tous le faire, nous les ministres, mais on ne le peut pas. Par contre, n'oublions pas que Billy ne peut pas prendre notre place. Voyez, nous avons tous une place. Certains d'entre nous sont évangélistes, d'autres prophètes, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, quoi que nous soyons. Certaines sont ménagères, d'autres mécaniciens, d'autres fermiers, quelle que soit cette place. C'est Dieu qui vous a établi dans votre position. Voyez, Joseph était prophète. Oui, il était capable d'interpréter les songes. Il ne pouvait rien y faire. Oui, il avait des visions. Il ne pouvait rien y faire. Regardez comme il était fidèle. Quitte à devoir perdre la communion avec ses frères, il est resté fidèle parce qu'il croyait à ses songes. Il croyait, d'après ce songe qu'il avait eu, qu'elles se prosterneraient toutes devant lui, ses gerbes. Ça s'est accompli parce qu'il y avait cru. C'était un véritable croyant. Comment? Il me reste 5 minutes et 10 pages. Remarquez bien, de références bibliques notées ici. La femme, Nathanaël, c'était un croyant, pas vrai? Nathanaël, quand il a vu ce qui s'est passé, que cela s'est manifesté dans son cas, Jésus lui a dit qui il était. Il lui a dit qu'il était vraiment un Israélite et qu'il n'y avait point de fraude en lui. Et il lui a dit où il était le jour précédent, sous un arbre, en train de prier. Il l'avait vu quand Philippe l'avait appelé. C'était un croyant. Beaucoup de ceux qui étaient là ont dit, « Ça, c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui opère la guérison divine. » Aujourd'hui encore, ce vieux démon-là n'est pas mort. Les gens croient que c'est le diable qui opère la guérison divine. Jésus a dit, « Si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé. C'est un royaume qui ne peut subsister. » Voyez, Satan a dit dans « Il ne peut pas le faire ». Satan, donc, ne peut pas chasser Satan. Alors, Nathanaël était un croyant, et quand il a vu la parole faite chair, confirmer qu'il était un croyant, il a dit « Tu es Rabbi, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël ». Il l'a cru. Quand la femme au puits a vu cela, elle l'a cru. C'est une croyante. Quand l'aveugle Bartimée, quand une femme est passée par là, les gens criaient et tout. Certains disaient, « Il y a tout un, on me dit que tu ressuscites les morts. Il y a un cimetière plein de morts par ici. Viens les ressusciter. Fais-nous voir ça. » Voyez, c'est ce même démon qui avait dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est le même qui lui a bondé le visage avec un chiffon et l'a frappé sur la tête en disant, il se passait la baguette de l'un à l'autre en disant, « Bon, si tu nous dis qui t'a frappé, nous croirons en toi. » Ces soldats, voyez, ils le ridiculisaient. Tout semblait perdu pour lui. Mais souvenez-vous bien de ceci, Dieu est toujours sur la scène. Voyez, il est là, prêt à tout moment. Or, Jésus avait dit, « Je pourrais parler à mon Père, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges. » Oh, pouvez-vous imaginer ce qu'un seul ange peut faire? Voyez? Mais, voyez-vous, mais là, sur un seul ordre, il pouvait lui envoyer 12 légions. Mais c'est qu'il avait un travail à faire. Il avait quelque chose à faire. Il fallait qu'il subisse tout cela. Vous avez quelque chose à faire. Dieu a prévu quelque chose que vous devez faire. Peut-être aurez-vous des chagrins et des difficultés. Peut-être aurez-vous des déceptions. Mais prions-nous afin d'en être épargnés? Non. Seigneur, fais-moi passer à travers ces choses, quelles qu'elles soient, peu importe ce que c'est. Fais que je ne m'en défile pas. Si elles me sont destinées, donne-moi la grâce de passer au travers. C'est tout. Maintenant, remarquez, l'aveugle Bartimée, il le savait, on le leur avait dit. C'est ce prophète de Galilée, il est le fils de David. Nous croyons cela. C'est sûrement ce que lui avaient dit certains croyants. Nous, les croyants, nous savons qu'il est ce fils de David. Il savait que s'il était celui-là, alors il était la parole. Et s'il reconnaissait qu'il était la parole, il savait donc qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. C'est pourquoi il s'est écrié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Les incroyants, eux, hurlaient ceci et cela, les membres d'église. Ça n'a pas arrêté l'aveugle Bartimée, pas du tout. Il a dit, « Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Peut-être qu'il ne pouvait pas l'entendre, mais il savait qu'il criait. Alors il s'est arrêté. Il s'est retourné. Il y avait là un croyant. Il a dit, « Ta foi t'a sauvé. Amen. » C'est exactement ce qu'il avait dit à la femme qui avait la perte de sang. La même chose, « Ta foi. » En effet, elle s'était dit dans son cœur, « Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. » « Ta foi t'a sauvé. » Voyez, c'était une croyante. C'est ce qui a sauvé William Dow, qui est assis là l'autre jour. La même chose, il avait eu un arrêt cardiaque complet et une crise cardiaque. Cet homme de 91 ans. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? C'est un croyant. Le révérend Tom Kidd, ici présent, qui aura bientôt autour de, il doit bien avoir dans les 90 ans ou pas loin. Et quand il avait 79 ans, on l'a transporté à l'hôpital. Il avait un cancer de la prostate. Le médecin dit, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais quand nous sommes entrés ce matin-là, que nous avons vu ce brave patriarche, son châle sur les épaules, assis là, un peu comme s'il déraisonnait, il frappait le sol avec sa petite canne. Il a dit une femme âgée qui était là, il l'appelait grand-mère, il la connaissait, elle était l'une des membres de son assemblée depuis des années. Il a dit, « Vous paraissez blanche comme la neige. » Il n'était plus tout à fait là, mais la puissance de Dieu est descendue dans cette chambre, et le voilà en vie ce soir. Ça, c'était il y a 4 ans, un homme qui avait près de 80 ans, et il est ici ce soir, en parfaite santé, et guéri du cancer. Voyez, pas un soi-disant croyant, un croyant. C'est ça, croire. Il prend Dieu au mot. C'est exactement ce qu'était l'aveugle Bartimée. Il était aveugle, mais il savait que s'il réussissait à tirer l'attention de Jésus-Christ, il obtiendrait ce qu'il voulait. Cette femme savait que si elle arrivait à toucher son vêtement, elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Tom savait, il avait foi que si je priais pour lui, il obtiendrait ce qu'il voulait. N'est-ce pas par cette même foi que Martha dit, « Maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mon frère est mort, il est là-bas, dans le sépulcre, depuis 4 jours. Mais demande-le à Dieu et Dieu te l'accordera. » Il a dit, « Ton frère ressuscitera. » Et il a dit, « Oui, Seigneur, dans les derniers jours, à la résurrection, il ressuscitera. » C'était un bon garçon. Il a dit, « Mais je suis cette résurrection et cette vie. » Oui, Seigneur, ça aussi, je le crois. Où l'avez-vous enseveli? Voilà, affaire classée. Oui, monsieur. La reine du Midi a paru dans cette génération d'incrédules. C'est vrai. Elle est venue, et là, elle a cru que ce qu'elle voyait venait de Dieu. La Bible dit, elle se lèvera au dernier jour avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Moïse était un croyant. Il avait essayé par l'intellect, il avait essayé toutes les combines possibles, mais ça ne fonctionnait pas. Il avait essayé de faire sortir Israël, car il savait qu'il avait été appelé à le faire. Il avait essayé la méthode mathématique, il avait essayé la méthode militaire, il avait essayé la méthode pédagogique, il avait essayé toutes les méthodes, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, finalement, il a suivi la méthode de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, là-bas, dans un buisson, il y avait un feu qui ne s'éteignait pas. Et de là, la parole lui a adressé ces mots. Je suis, pas j'étais, ni je serai, je suis. Il est encore le je suis. Il est la parole éternelle, perpétuelle. Moïse n'a pas douté. Les difficultés s'élevaient contre lui. Tout dans la nature était contre lui. Tout était contre lui. Mais un bâton tordu à la main, il est allé là-bas et a pris le contrôle de toute la nation. Il l'a noyé là, dans la mer morte. Il a conduit Israël au pays promis. Pourquoi? Il croyait en Dieu, c'est vrai. Il avait, voilà, le croyant. On pourrait passer, je viens de passer une demi-heure à parler du croyant. Il me reste 2 catégories. Nous allons les voir en vitesse, puisque de toute façon, elles ne sont pas importantes. Non. Puis, deuxièmement, là, on a l'incroyant. Parlons maintenant de l'incroyant. L'incroyant, qu'est-ce qu'il fait? Nous voyons que le croyant fait quoi? Il accepte la parole. De toute race, de toute génération, tout au long, depuis Noé, tout au long. On pourrait passer 6 mois de réveil là-dessus, à présenter chacun de ces personnages. Il croit. Le croyant ne met pas en doute. Le croyant, il y croit, sans se soucier des apparences, ni de ce que les autres ont à dire là-dessus, de combien la chose peut sembler impossible. Le croyant, il y croit. Il croit quoi? La parole. Pas le credo, la parole. Pas la dénomination, la parole. Pas ce que quelqu'un d'autre dit, ce que la parole dit. Maintenant, souvenez-vous, le croyant, c'est ça. Le croyant ne met pas en doute. Le croyant ne dit pas, comment cela peut-il se faire? Il faudra qu'on m'explique. Ça, c'est l'incroyant, oui. Le croyant, lui, peu importe ce que c'est, si c'est la parole, c'est la parole. C'est vrai, ça, c'est le croyant. Maintenant, l'incroyant. Donc, nous voyons ce que nous allons parler des incroyants. Nous voyons qu'ils avançaient relativement bien tant qu'on leur passait la main dans le dos et qu'on les appelait disciples. Tant qu'ils, que tout allait bien, là, pas de problème. Mais quand ce prophète, celui qu'il croyait être prophète et qu'il reconnaissait comme tel, qui pouvait guérir les malades et tout, qu'est-ce qu'il a fait quand la vérité vraie et la réprimande sont venues et que tout cela allait à l'encontre de ce qu'il croyait? Alors, ils n'ont pas pu accepter la parole. Ils pouvaient accepter les miracles, ça oui, et ils en faisaient. Ils sont allés chasser les démons, ils ont prêché la parole, mais ils n'en étaient pas moins des incroyants. Dans Matthieu 10, il les a envoyés 2 à 2, les 70, ils ont chassé les démons, si bien que Jésus s'est réjoui et a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voyez, ils ont chassé les démons et Judas était présent avec eux. Voici donc les incroyants. Mais là, dès que Jésus s'est mis à dire que lui, il était quelque chose, qu'il était la résurrection, qu'il était la vie, qu'est-ce que vous diriez si vous voyez le Fils de l'homme monter là d'où il est venu? Oh là, cet homme essaie de dire qu'il est venu du ciel. Pour nous, ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas croire ça. Il a dit... Qu'est-ce qu'il y a? La chair dont vous parlez ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà, c'est ça. L'esprit vivifie la parole. C'est l'Esprit, pas le credo. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vivifie la parole pour vous. Alors elle prend vie, et voilà, vous voyez ce qu'il en est. Vous le voyez par la foi, vous savez que c'est vrai, parce que la parole le dit, et c'est l'Esprit qui vivifie la parole pour vous. Voilà, c'est ça. Donc il a dit, qu'est-ce que... Et dès qu'on a fait ça, on constate que les incroyants, quand on dit quelque chose sur quoi ils ne sont pas d'accord, ils vous laissent tomber. Ça, je refuse. Oh, et c'est de plus en plus courant dans le monde d'aujourd'hui. Mettez-vous simplement à dire quelque chose. Les gens viennent. J'ai remarqué que lors des réunions, les gens viennent. Ce sont de grands rassemblements. Et là, on se lève. On se met à dire quelque chose. Bon, tant qu'ils restent là, à observer, à attendre. Et dès qu'on dit, or Jésus-Christ s'est identifié comme Messie par le fait qu'il était prophète. La cruche est déjà pleine. Elle prend la porte. Quelqu'un, ils prennent la porte. Qu'est-ce que c'est? Des incroyants! Bon, vous dites, vous inventez ça! Absolument pas! Je dis exactement ce que la Bible dit ici. C'était des incroyants, ils sont partis. C'était pourtant des disciples, mais là, c'était contraire à ce que... Ils ont dit, une telle chose, qui pourrait croire ça? Voyez? C'était des pharisiens, des sadducéens, qui étaient venus se joindre à lui. En effet, voyez-vous, quand le surnaturel se manifeste, il produit trois types de gens. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Il a produit l'incroyant, le croyant et le soi-disant croyant. Il a produit les trois catégories. J'ai noté tout ça ici. On pourrait vraiment passer toute la soirée là-dessus, à expliquer ce qui arrive. Partout où on trouve ça, on voit les trois. Et c'est toujours comme ça, voyez-vous, on les retrouve là. Remarquez bien, les 70, ils sont partis parce que cela ne correspondait pas à ce qu'ils croyaient être vrai. Nous ne devons pas avoir une seule pensée à nous. Ce qui compte, c'est ce que lui, il a dit. Il faut rejeter vos propres pensées. Il faut dire uniquement ce que lui, il dit. La vraie confession, c'est ça. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse qu'il s'est passé une certaine chose, c'est que je redis exactement ce qui s'est passé là. Voilà ce qu'est une vraie confession. Et il est le souverain sacrificateur de notre confession. Voyez, en disant la même chose que ce que Dieu a dit, voyez, alors c'est forcément vrai, puisqu'on répète simplement la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, les 70 sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont partis pour la simple raison qu'ils n'étaient pas d'accord. Par rapport à leur sagesse et à leur affiliation religieuse, ça, c'était inacceptable. Pour eux, il était inacceptable de penser que cet homme qui se tenait là, que tous les autres croyaient que ça, c'était un enfant illégitime. Il n'avait pas le droit de se proclamer lui-même Dieu. Il n'était qu'un homme. Ils ont dit, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre que tu aurais faite, mais nous te lapidons parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et la parole déclarait qu'il était Dieu. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Les Écritures mêmes qu'il lisait. Et le jour même où il chantait ce psaume, le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous mes os, ils me regardent. Aucun de ces os ne sera brisé. » Pendant qu'il chantait ce même cantique dans le temple, le sacrifice, suspendu là, faisait entendre d'une voix forte ces mêmes paroles que David avait prononcées 800 ans auparavant. Elles étaient trop aveugles pour le voir. Et aujourd'hui, le Dieu même qui avait parlé de l'âge actuel est maintenant entré en scène. Il fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et ils sont trop aveugles pour le voir. Ça, ce sont les incroyants. Ils partent en disant, « Oh, je ne peux pas croire des histoires pareilles. Je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. » Ce que vous avez entendu, ça ne change absolument rien. La Bible dit que ces choses seraient là. C'est sa parole. Eux non plus, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Pourtant, c'était bien là. Voyez, c'est vrai. C'était des incroyants, tout comme Ève, qui était très religieuse. Bien sûr qu'elle l'était, mais elle n'a pas cru la vraie parole. Alors elle a dû se fabriquer une religion, et c'est ce qu'elle a fait. Donc, des feuilles de figuier, voyez-vous, mais ça n'a pas marché. Religion signifie une couverture. Cain a fait la même chose. Cain ne pouvait pas croire que c'était là la chose juste. Il s'est dit, Dieu est saint, Dieu est pur, et Dieu est d'une grande beauté. Je vais donc cueillir des fleurs, en prendre quelques-unes, et dresser un autel magnifique, et je lui montrerai le respect que j'ai pour lui. Je me placerai devant cet autel, et je me prosternerai devant Dieu. J'adorerai ce Dieu-là. et je mettrai des fleurs sur l'autel, parce que, tu sais, mon père et ma mère ont mangé des pommes, des fruits, dans le jardin d'Éden, et c'est à cause de ça que j'en ai été chassé. Donc, c'est ce qui me permettra d'y retourner, parce que ce que je ferai là sera d'une grande beauté. Dieu ne peut vraiment pas rejeter ma grande cathédrale. Voyons, ce sera moi, ça, une cathédrale si imposante. Je construirai une cathédrale si belle qu'elle attirera l'attention de Dieu. Satan est celui qui réside dans la beauté. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi une jolie femme sert parfois d'appât à Satan. S'il réussit à avoir cette femme sous son emprise, il pourra entraîner en enfer un plus grand nombre d'hommes qu'il pourrait le faire avec tous les bars du pays. C'est vrai, voyez? Ou quelqu'un qui est bel homme, de très belle apparence, et qui n'a pas le courage d'être un homme, un vrai. Voyez-vous, là encore, il pourra entraîner ses femmes vers le diable, les envoyer en enfer. Oui, monsieur. Remarquez, Satan réside dans la beauté. Qu'avait-il essayé de faire au commencement? Ériger un royaume plus beau que celui de Michel. Il est parti vers le nord et a pris les deux tiers des anges avec lui. Alors, voyez-vous de qui celui qui avait cette nature-là, en lui, était le fils? Le fils de Satan, absolument, il l'était. Il a donc bâti cet autel et s'est mis à genoux et a adoré. Tout ce que qu'Abel a fait, il l'a fait aussi. Mais Abel savait que ce n'était pas ça. C'était à cause du sang qu'ils avaient été chassés. Il savait que c'était à cause de ça, à cause du sexe, du sang. Alors, il a pris un petit animal et il l'a offert sur un rocher. Il lui a tranché la gorge. Remarquez Dieu lui a dit, il a dit, « Pourquoi n'adores-tu pas comme ton frère ?» Et là, tu agirais bien. Si tu faisais cela, tu agirais bien. Mais non, il était bien trop calé sur le sujet. Voyez, il a rejeté la parole originelle, une parole confirmée. C'est bien ses enfants d'aujourd'hui, ça. Voyez, maintenant regardez, Dieu avait approuvé, la Bible dit, Hébreux chapitre 4 ou chapitre 11, Dieu approuvant son don par lequel il fut déclaré juste, Dieu a confirmé son offrande. Dieu a prouvé que c'était là ce qu'il acceptait, c'était là sa parole, son plan. Et il a dit à Caïn, il a dit, fais la même chose et tu vivras. Mais pensez-vous qu'il aurait abandonné sa conception des choses? Non, monsieur, c'était un incroyant. Et il est parti, tout de suite, c'est vrai. Caïn a fait la même chose. Nimrod a fait la même chose. Des incroyants. Il ne croyait pas. Belshazzar, la même chose. Nebuchadnezzar. Quand il avait fait de Daniel son Dieu, il l'avait nommé Belshazzar, ce qui était le nom de son Dieu. Il avait vu Daniel accomplir les grandes œuvres de Dieu. Donc, il savait que Belshazzar croyait, ou que Daniel était un Dieu. Alors, il a fait une statue à l'image de Daniel, et l'a érigée là-bas, et a forcé tout le monde à l'adorer, et ainsi de suite. Voyez-vous, le royaume des nations a commencé par le culte forcé de la statue d'un homme saint. Et le royaume des nations se termine par l'action forcée de l'image d'un homme saint. Voyez, de la même manière. Et au début du règne des nations, il y avait une écriture sur la muraille, dans une langue inconnue, que personne ne pouvait lire, sauf le prophète. Et aujourd'hui, il y a une écriture sur la muraille, c'est vrai, Ichabod. C'est que la gloire de Dieu s'est retirée de ces choses. Et l'écriture est sur la muraille. Et on peut la lire par la pensée spirituelle, celle qui croit aux choses spirituelles, qui est née de l'Esprit de Dieu. Ce brave Belshazzar est sorti et a pris les vases du Seigneur pour y boire du vin. Pourquoi? Il était un incroyant. Il pensait qu'il était un croyant, mais il était un incroyant. Voyez, c'est ça. Il était incrédule à l'égard de la parole. Achab, il était un incroyant, bien qu'il agissait comme s'il ne l'était pas. Non, non, il était parmi les croyants, mais il était un incroyant. Qu'a-t-il fait? Il a épousé une idolâtre et a introduit cela, l'idolâtrie, en Israël. Il était un incroyant, ça, nous le savons. Il nie le fait que toute la parole de Dieu est vraie. L'incroyant, c'est, voyez-vous, souvenez-vous-en, là, c'est un hypocrite. Et c'est comme ça qu'il agit, il prétend y croire, mais il nie cela. Il dit, bon, une bonne partie de cela est correcte, mais s'il ne considère pas que tout est vrai, alors ça fait de lui un incroyant. Vous devez croire chaque trait de lettre, chaque iota et tout ce qui est dit là-dedans. Ce doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, si maintenant vous dites, je ne crois pas à ça, eh bien, dans ce cas, vous êtes un incroyant. Un homme m'a dit une fois, c'était un ministre, il a dit, Monsieur Branham, peu m'importe le nombre de gens que vous pouvez présenter qui, selon vous, ont été guéris. Je n'y croirais pas. J'ai dit, bien sûr que non. Vous ne pouvez pas y croire. Vous êtes un incroyant. Ce n'est pas pour vous. C'est seulement pour les croyants. Vous devez y croire. Voyez? Et eux, ils n'y croient pas. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans cet état-là, Paul a bien parlé, le prophète. Il a dit qu'il serait emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant des apparences de piété, mais reniant ceux qui ont fait la force de la parole. Éloigne-toi de ces gens-là. Remarquez, ils nient toute la parole, mais en apparence, ils sont religieux. Ils sont incrédules à l'égard de la vraie parole, bien qu'elle soit confirmée. Tout au long de chaque âge, Dieu a confirmé la parole de ces personnes dont j'ai parlé. Noé, jusqu'à Moïse, et tous les prophètes, et ainsi de suite. Dieu a parlé par le surnaturel, et a confirmé la parole. Et malgré tout, les gens de l'époque ont ignoré cela. Et ses disciples étaient là, ses 70. Ils regardaient Jésus accomplir les choses qu'il accomplissait. Ils connaissaient l'Écriture, et leur avaient dit que c'était l'âge dans lequel ces choses devaient se produire. Et là, quand il a dit, « Le Fils de l'homme, que direz-vous » quand il a commencé à leur parler de rompre le pain, et ainsi de suite, et qu'il s'est mis à leur parler de grandes choses spirituelles. Alors, ils ont dit, « Oh, cette parole est dure !» Il a dit, « Que direz-vous alors ? Si le Fils de l'homme, si vous le voyez monter au ciel, d'où il vient ?» Il a dit, « Est-ce la chair ou bien l'esprit qui vivifie ?» Voyez ? Et alors, ils se sont retirés. Ils ont dit, « Oh, ça, non, je ne peux pas croire ça. » Voyez ? Et ils ont tout de suite abandonné la parole. Ils ne veulent même pas rester pour voir ce qui se produit. Voilà l'incroyant. Et eux, qu'ont-ils fait alors? Nous découvrons que ces derniers, ces gens, ces croyants, des prétendus croyants, qui avaient pourtant des apparences de la religion, ils ont manqué de voir la vérité identifiée de la parole de Dieu, parce que c'était contraire à ce qu'ils croyaient. Voyez, ce que vous croyez n'a aucune importance. Combien vous êtes fidèles, combien vous êtes religieux, ça n'a absolument rien à y voir. La sincérité, eh bien, ça n'a rien à y voir. J'ai vu des gens vraiment sincères. J'ai vu des païens brûler leurs enfants, les donner en pâture aux crocodiles, des mères faire cela à leurs bébés. Ça, c'est plus que ce qu'un chrétien ferait. Voyez ? Ils croient sincèrement, mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Les gens disent, « Eh bien, cette église a tenu bon, c'est que vous êtes sincèrement dans l'erreur, si c'est contraire à la parole. Eh bien, écoutez, moi, je ne crois pas une telle chose. Mais pourtant, la Bible dit que c'était ainsi. Voyez ? Je ne crois pas que nous devons faire ceci. Peu m'importe ce que vous pensez ne pas devoir faire. Dieu a dit que ça devait être fait. Voici les signes qui les accompagneront. Jusqu'où ? Par tout le monde. Qui ? Toute la création. Voyez, il en sera ainsi. Or, on sera ainsi, c'est « cela arrivera ». Et ce message de l'heure que nous apprécions tant en ce moment, la présence de Dieu, le dernier jour, le temps du soir où les lumières brillent, les choses qui ont été dévoilées, la parole qui était confirmée et prouvée comme étant la vérité, cela a été prophétisé et s'est accompli par la science et tout le reste. Il a été démontré que c'est Jésus-Christ le même hier et éternellement. Et si un homme rejette cela, c'est un incroyant. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il est paralysé par la puissance de Satan. Il n'y a alors pas d'espoir pour lui. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Là, on a vu quoi? Le croyant. Là, l'incroyant. Maintenant, la troisième catégorie dont nous allons parler maintenant, c'est le soi-disant croyant. Celui-là, attention, le soi-disant croyant. Maintenant, souvenez-vous, les trois étaient présents. Bon, nous constatons que ces derniers font exactement comme leur père, Judas. Il y avait Pierre et les autres apôtres, des croyants. Il y avait les 70, des incroyants. Et il y avait Judas, lui, il est resté plus longtemps. C'était un soi-disant croyant. Que font-ils? Ils sont du genre à s'accrocher jusqu'à trouver quelque chose, une erreur là-dedans. Ils essayent constamment de trouver une faille, de voir comment les choses se passent, de voir s'il s'agit d'une ruse, d'une combine. Ils attendent qu'on leur propose une bonne affaire. C'est ce qu'ils cherchent. L'incroyant, lui, il ne reste même pas là à attendre. Il a condamné cela et il est parti. Le croyant, lui, quoi qu'il arrive, il y croit quand même, parce que c'est la parole. Les voici, vos trois catégories. L'incroyant, lui, il part dès qu'on dit la moindre chose qui lui déplaît. Frère, il montrera ses couleurs à l'instant même. C'est un incroyant. Paul a dit, ils sont sortis du milieu de nous parce que, dès le départ, ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont commencé avec nous. Oh, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous arrêtait? Voyez-vous ça? Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand ils ont vu la parole suivre parfaitement son cours, eh bien, eux, ce qu'ils voulaient, c'était trouver une sorte de combine dont ils pourraient se servir. Voyez? Mais les vrais croyants ne mettent rien en doute. Si c'est écrit dans la parole, ils y croient et poursuivent simplement leur chemin. C'est ça. Toujours, il est écrit. Si ce n'est pas écrit, eh bien, tenez-vous loin de ça. Quoi qu'il arrive, il faut que ce soit écrit. Voyez, ils voient cette parole écrite et ils y croient. Ils voient Dieu agir dans sa parole. Ils voient l'heure, le message, le temps. Et ils marchent avec cela. Comme je l'ai dit ce matin, ce vieux Pilate, il a vraiment dû faire les 100 pas pendant la nuit. La conscience tourmentée a essayé de se blanchir. Et il a dit, oh, sans doute qu'il a passé la nuit à se demander, en disant, je me suis lavé les mains toute la nuit, et je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu vois, elles ne sont pas propres. Je ne pourrai jamais aller à sa rencontre. J'ai du sang sur les mains. Oh là là, voyez, ne vous rendez jamais coupable d'une telle chose. Voyez, le sang est sur vos mains. Il n'existe qu'un moyen pour vous de l'ôter de là. C'est de l'accepter, c'est vrai, d'en devenir une partie. C'est pour cela qu'il a été versé. Or, le soi-disant croyant, lui, reste là et se comporte le plus pieusement possible. Mais au fond de son cœur, il cherche à découvrir ce qu'il en est. Comment vous vous y prenez? Oh, cette catégorie-là, le pays en est plein, les hypocrites. Oui, lui, c'est un Judas, tout à fait. Il reste là, il devient membre du groupe. Il était le trésorier, voyez? Il est là, la main constamment tendue pour recevoir de l'argent. Une chose est sûre, il est toujours après l'argent. Il tend la main pour ça. C'est un soi-disant croyant. Il se comporte comme un croyant, mais au fond de son cœur. Souvenez-vous, il n'a pas dupé Jésus. Après que les 70 sont partis et que les croyants ont pris position là, il s'est tourné vers les croyants. Il a dit, « Il reste encore quelque chose parmi vous. » Car a-t-il dit, « J'en ai choisi 12 et l'un de vous est un démon. » Jésus le savait dès le commencement parce qu'il était la parole. Il connaissait le secret du cœur. Combien c'était dur! Arrêtez-vous une minute. Réfléchissez-y profondément, longuement et franchement. Combien ça devait être dur pour lui, alors qu'il marchait là, de savoir pendant tout ce temps qu'un homme qu'il appelait frère, que celui-là était l'imposteur, qui allait chercher à lui nuire et qui allait le vendre pour 30 pièces d'argent. Combien c'était dur de garder cela pour lui, alors que son ami marchait à ses côtés. Il a même dit, mon ami, il appelait Judas son ami. Ne suis-je pas resté avec toi pendant tout ce temps? Il le savait dans son cœur, mais ne pouvait pas le dire. Il savait, dès le commencement, qui était celui qui le livrerait. Le voilà, ce soi-disant croyant. Il est là à attendre. Il chante sur tous les tons, disant, « Oh, je crois ceci, et je crois ceci, et je crois ceci. » Mais, oh, vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est le temps de telle et telle chose. Oh, voyez, il a l'oreille bien tendue. Le vrai croyant n'écoute rien d'autre que la parole. Un point, c'est tout. Il a l'œil sur la parole. Il ne cherche pas de faille. Il ne cherche pas de combine. Il croit Dieu et c'est réglé. Il continue à avancer. Voyez, voilà le croyant. L'incroyant, lui, il en a assez au bout d'une minute. Il ne peut pas rester 10 minutes à écouter le message. Il doit se lever et partir. C'est contraire à son credo et il ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Voilà, il sort. Enfin, le soi-disant croyant, lui, il reste plus longtemps, ce Judas. Voyez, c'est lui l'imposteur. C'est lui le scélérat, si je peux employer un tel mot. Judas, lui, ne bougeait pas de là. C'est là où, bien souvent, ces soi-disant croyants deviennent très populaires parmi les gens. C'est vrai, ces soi-disant croyants, voyez. Certains d'entre eux sont des hommes puissants, instruits, qui ont un doctorat, un gros salaire et tout le reste. Certains d'entre eux sont des hommes importants, rusés, exactement comme des fils de Satan le seraient. Regardez comment Satan se présente là et est d'accord avec chaque point de cette parole. Il attend simplement d'avoir trouvé le point faible d'Ève qui lui permettrait de démontrer sa puissance pour la séduire, pour la trahir. Ça, c'était Satan. Et dans cet âge-là, Satan était là, sous la forme de Judas. C'était Satan dans le premier âge. Que faisait-il? Il était d'accord avec la parole, jusqu'à un seul petit point. Il essayait de trouver un endroit où il pourrait détecter une faiblesse. Et en ce moment, c'est exactement ce que trouve ce Judas. Il assistera aux réunions et surveillera tout, jusqu'à trouver ce petit point où il dira, « Oh, voilà, c'est ça !» Voyez, « Oh, c'est comme ça qu'on le fait !» Voyez, c'est tout à fait exact. Beaucoup d'entre vous se rappellent ce qui est arrivé là-bas, le soir où cet homme est venu sur l'estrade. Il pensait que je lisais les cartes de prière par télépathie. Et là, il pensait avoir raison. Frère, il était certain d'avoir tout compris. Et il est arrivé là, il était membre d'une église qui ne croit pas à ces choses, à l'évangile, au plein évangile. Et il est monté sur l'estrade. J'étais fatigué. On était sur le point de m'emmener. C'était à Windsor, Ontario. Et là, arrivaient des États-Unis à Windsor, en face de Détroit, cette grande salle là-bas. Et cet homme est arrivé là. Il portait un complet gris et une cravate rouge. Il avait l'air intelligent, astucieux. Il est monté sur l'estrade. Et il s'est avancé. Et j'ai dit, « Eh bien, donnez-moi simplement votre main. » J'ai dit, « Je suis fatigué. J'ai vu tellement de visions. Donnez-moi simplement votre main. » Et je n'ai pas porté attention à cet homme. Il a posé sa main sur la mienne. Et j'ai dit, « Monsieur, vous n'avez aucun problème. Allez-y. » Il a dit, « Oh, bien sûr que si. » Et j'ai dit, « Eh bien, laissez-moi voir. » J'ai dit, « Non, monsieur, il n'y a pas le moindre signe. Non, monsieur, vous êtes en bonne santé. » Il a dit, « Regardez donc ma carte de prière. » J'ai dit, « Peu m'importe ce que vous avez écrit sur votre carte de prière. » J'ai dit, « Je n'ai rien à faire avec cette carte de prière. » Sans y penser, voyez-vous, j'étais fatigué, épuisé. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu était toujours là. Souvenez-vous, si c'est lui qui vous a envoyé, il est tenu de prendre soin de vous. Ce n'est pas moi qui suis tenu de le faire, c'est lui. C'est lui qui a envoyé cela. Je suis simplement censé m'en tenir à ce qui est vrai. Quand Moïse a jeté sa verge par terre, elle s'est transformée en serpent. Et les magiciens ont fait la même chose. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire d'autre que se tenir là et attendre la grâce de Dieu? Voilà tout, la même chose. Il a suivi les commandements. Et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Voyez. Cet homme a dit, « Eh bien, a-t-il dit, il y a quelque chose. Regardez ma carte de prière. » J'ai dit, « Eh bien, peut-être que vous avez eu beaucoup de foi, et cela a réglé la chose. » Sans y penser, vous voyez, je n'y prêtais même pas attention. Alors, il a déboutonné son manteau et a bombé le torse. Il a dit à l'auditoire, « Nous y voilà !» Et je me demandais, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il a regardé autour de lui. Il a dit, « Nous y voilà !» Il a dit, « Avez-vous vu le truc ?» Le voilà, votre Judas, un homme religieux, un prédicateur d'une grande dénomination. Il a dit, « Nous y voilà !» J'avais tellement de foi. Il est si faible maintenant qu'il n'arrive plus à lire la télépathie. Voyez, ça ne lui vient plus. Et là, il a dit, « Ce n'est pas parce que j'avais une si grande foi. » Il a dit, « J'ai écrit cela sur ma carte de prière. » Et maintenant, il n'arrive pas à percevoir cela. Voyez, il a dit, « Voilà le truc. » Et je pensais, « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, la grâce de Dieu est descendue. J'ai dit, « Monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu ?» Un Judas contemporain. Je dis, vous êtes de l'Église du Christ. Excusez-moi. Eh bien, ça y est, je l'ai dit. Vous êtes un prédicateur de l'Église du Christ. Vous faites partie de l'Église du Christ aux États-Unis. Et cet homme, assis là-haut, portant ce complet bleu, ainsi que votre épouse et son épouse, qui sont assises là. Et hier soir, vous étiez assis autour d'une table, recouvert de quelque chose de vert, d'une nappe comme ça. Et vous avez figuré que ceci, c'était de la télépathie. Et que vous viendriez ce soir. Cet homme s'est levé, il a dit, « C'est la pure vérité, que Dieu ait pitié de moi. » J'ai dit, « Monsieur, vous avez écrit tuberculose et cancer sur cette carte, et maintenant vous avez ces choses. Elles sont à vous maintenant. » Et il m'a attrapé par la jambe de mon pantalon. Il a dit, « Je n'ai pas... » J'ai dit, « Je n'y peux rien. Allez de l'avant. C'est entre vous et Dieu. Vous avez écrit votre destin funeste sur votre carte. » Et il a contracté cela. C'était tout. Voyez, des soi-disant croyants, des trompeurs, qui cherchent à porter un jugement défavorable sur Dieu et sur sa parole. Ce sont des Judas. Ce sont eux. Avez-vous vu comment Judas est apparu? Avez-vous vu comment cet homme-là est apparu? C'est comme ça que cela se passe avec les soi-disant croyants. Voyez, les soi-disant croyants, oh, ils sont très instruits parfois. Une grande épreuve de force a lieu entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils se livrent entièrement à leur dénomination, exactement comme leur précurseur, Judas, l'avait fait. Judas s'est livré entièrement à sa dénomination. Il a vendu Jésus, la parole, à sa dénomination. Il a trahi Jésus-Christ après avoir prétendu en faire partie. Les ministres prétendent parfois être des serviteurs de Christ. Et quand la parole qui est confirmée pour ce jour-là est parfaitement identifiée, qu'il s'agit du message de l'heure, Ils se livrent entièrement à leur dénomination pour la popularité. Exactement comme Judas, qui avait livré Jésus aux mains des pharisiens et des sadducéens. Cet esprit ne meurt pas. Alors il se trouve parmi les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Voyez, c'est vraiment exact. Il s'est présenté là-bas et a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et bien des hommes font la même chose aujourd'hui pour avoir un gagne-pain, pour 100 dollars de plus par semaine. Exactement. Ils renient le Dieu qui se tient au milieu d'eux, qui a racheté leur vie et qui détient la plénitude de la parole. Et ils disent, « Oh, les jours des miracles sont passés !» ou « De nos jours, Dieu n'a pas besoin d'une telle chose !» Voyez, « Oh, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu !» Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Toutes ces autres choses qu'ils disent. Et quelques-uns disent, « Je crois au credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Je crois à la Sainte Église catholique romaine et toutes ces choses. Dites-moi que les apôtres ont déjà eu un credo pareil. Si les apôtres ont eu un seul credo, il est écrit dans Actes 2:38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » S'ils avaient un seul credo, c'était ça. Ils n'ont pas eu de credo, c'était la parole. C'est bien vrai et c'est encore pareil. C'est l'ordonnance pour guérir de la maladie du péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, voyez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ils se vendent comme Judas. Voilà le soi-disant croyant. Certains d'entre eux sont des gens très talentueux. Et ce soi-disant croyant, observez ce gars, c'est le gars astucieux. Ce petit gars qui en a vite assez et qui, à la moindre phrase qui lui déplaît, se lève d'un coup et sort en vitesse. Ne faites pas attention à lui. Dès le départ, il n'est qu'un incroyant. Mais quand vous voyez ce gars-là, un soi-disant croyant qui reste là, voyez, c'est lui, le Judas, c'est lui. Comme ces gens de grands talents, je vais citer des noms ici. C'est une chose que je ne devrais vraiment pas faire, mais je vais quand même les citer pour que vous le sachiez. Des gens comme Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone, Elvis Presley, un pentecôtiste, Pat Boone, un membre de l'Église du Christ, Red Foley, un diacre dans l'Église du Christ, et je pense qu'Ernest Ford est méthodiste. Et tous ces gens intelligents qui ont ces talents à la télévision, et les gens disent, « Eh bien, ne sont-ils pas religieux? Ils chantent des cantiques. Ça ne veut absolument rien dire. » Oui, monsieur, ils induisent le monde en erreur. Qu'est-ce qu'il gagne de tout ça? Judas a reçu 30 pièces d'argent. Elvis, lui, a reçu une flotte de Cadillac et 100 ou 200, 150 millions de dollars ou 1 million de dollars sur la vente de ses disques et toutes ces choses. Pat Boone et tous les autres, peu m'importe de quelle église ils font partie et tout, c'est de l'hypocrisie. C'est un faux semblant. C'est une façade. Leur vie démontre que ce n'est pas vrai. C'est ça. Puis, il y a ceux qui ont des talents, qui sont de grands organisateurs, qui ont la sagesse du monde. Ils prêchent l'Évangile, ils prétendent le faire, des hommes intelligents, des intellectuels. Écoutez, un homme qui était formé dans ce domaine-là, ce n'est pas un prédicateur, c'est un conférencier. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons des conférenciers. Jésus n'a jamais dit « Allez acquérir une formation pour faire ceci ». Il a dit « Allez prêcher l'Évangile et ces signes accompagneront la prédication ». Voyez, voyez, ça, ce n'est pas de s'instruire pour devenir un conférencier qui peut se tenir là et simplement, oh, introduire des choses qui en mettent plein la vue et vous donner l'impression que vous êtes assis en présence d'un archange. Ce n'est pas ça. Ayons l'apparence de la piété. Voyez-vous, ça, c'est un conférencier, pas le Saint-Esprit en action. Un jeune homme qui ne connaît pas son alphabet peut venir avec la puissance de la foi, avec la parole, et amener le Saint-Esprit à faire des choses dont cet homme-là ignore tout et dont il nie l'existence. Voyez, voilà, des gens importants. Oui, monsieur. Alors, ce sont des organisateurs. Ils sont prospères, réputés, intelligents, dans la sagesse du monde. Exactement comme ce que Satan a fait à Ève. Cette petite femme sans défense. Il est allé directement vers elle et a essayé de lui vendre l'idée selon laquelle elle deviendrait plus sage qu'elle l'était. Et c'est cela qu'elle cherchait. Au lieu de ne s'en tenir qu'à ce que la parole disait, lui, il voulait lui vendre l'idée selon laquelle elle deviendrait plus sage. Elle, elle l'a accepté. Et ces gens font encore la même chose aujourd'hui. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oh là là. C'est exactement la même chose que les pharisiens ont vendu. Et c'est ce qu'ils ont fait, voyez, avec la sagesse qu'ils ont. Mais ils ont nié toute la parole de Dieu, même si elle a été très bien démontrée et qu'elle aurait été confirmée. Ils essayent quand même de trouver quelque chose. Ils pensent que c'est une combine. Ils ne sont pas affermis dans leur esprit. Ils ne peuvent pas croire cela. Peu importe ce que vous leur dites, ils reviennent à la charge. Peu importe ce que vous leur dites, ils reviennent à la charge. Et on n'arrive pas à faire pénétrer cela, voyez-vous. Alors, observez-les. Ils sont à l'affût d'une occasion, de la moindre faille. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi, n'eût été la grâce de Dieu, toutes mes failles, si j'en avais, auraient été exposées. Voyez, c'est la grâce de Dieu, car il n'y a aucune faille dans la parole de Dieu. Il n'y a que l'évangile pur. J'ai toujours dit que si quelqu'un me voit enseigner ou faire quelque chose qui n'est pas en conformité parfaite avec la parole de Dieu, qu'il vienne me le dire. Voilà la chose qui couvre ces failles que vous essayez de trouver. Rivez simplement vos yeux là-dessus et vous ne verrez pas de faille, car il n'y a pas de faille. Maintenant, souvenez-vous, Judas pensait en avoir trouvé une. Cet homme pensait en avoir trouvé une. Souvent, les gens pensent en trouver, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Voilà les soi-disant croyants, des hypocrites. Ils s'en tiennent à 95% de la parole, tout comme Ève, mais à 99,9%. Mais c'est ce dixième qui a causé toute la mort et tout le chagrin. Voilà la seule chose qui condamne l'organisation et ces choses. Elles ne prennent pas toute la parole de Dieu. Voilà les soi-disant croyants. Nous remarquons que ça a toujours été le cas, mais ces derniers nient la véracité d'une parole confirmée. Dans chaque génération, on trouve ces gens-là. Nous les découvrons à mesure qu'ils avancent. Ils sont aussi très religieux. Maintenant, je vais bientôt terminer, parce que j'ai déjà pris une demi-heure de plus. Jésus, nous découvrons qu'il nous a mis en garde contre ces derniers jours et ce genre de personnes. En effet, ils ressembleraient tellement à la vraie chose qu'ils iraient jusqu'à séduire même les élus. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Judas. C'est ces gens qui s'éloignent tellement du but. Observez, ils peuvent même aller jusqu'à pleurer, pousser des cris, prétendre chasser les démons et tout ça, et puis retourner leur veste et nier la parole. Tout à fait. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont presque. Observez jusqu'où Judas est arrivé. L'esprit de Judas est monté dans l'évangile jusqu'à la Pentecôte. Mais quand est arrivée l'heure de son baptême au nom de Jésus-Christ et ces autres choses qui vont avec le baptême du Saint-Esprit, il est parti. Il s'est révélé sous son vrai jour. Et cet esprit peut vivre dans ces dénominations jusqu'à en arriver à cette vérité. C'est là qu'il rebrousse chemin, comme l'esprit qu'il y a sur ces gens. Cet esprit qui a précédé leur venue, tout comme Jean avait précédé la venue de Jésus. Eh bien, vous dites, Jésus a dit qu'il serait tellement proche. Maintenant, les élus, voilà la catégorie de gens dont le nom était écrit dans le livre depuis la fondation de la vie, qui croient, ou depuis la fondation du monde, qui croient toute la parole de vie. Ça, ce sont les élus. Or, observez ces gens. Maintenant, je dis ceci avec révérence, respect et avec l'amour divin. Autrement, j'ai moi-même besoin d'un appel à l'autel. Remarquez, Jésus a dit qu'il séduirait même les élus. Or, ça, ce ne sont pas les méthodistes, ça, ce ne sont pas les baptistes. Eux, nous savons qu'ils sont des incroyants dès le départ. Mais c'est l'organisation des pentecôtistes qui se sont intégrés à cette dénomination. Ils ont délimité leurs frontières sans inclure la parole. Et ils ont délimité une frontière, ils ont fondé leur propre organisation et ont exclu la parole. Ils séduiraient même les élus. Ils sont exactement semblables. Vous dites, ils pleurent, ils poussent des cris, ils sautent en l'air, ils prétendent avoir des services de guérison. Judas aussi avait fait cela, ainsi que tous les autres. Ils sont sortis, et quand ils sont revenus, ils se réjouissaient, et tout cela. Et même leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais souvenez-vous, l'épouse ne comparait pas avec ce groupe. Elle part dans l'enlèvement. Au jugement, le jugement était en cours, et les livres furent ouverts, celui du méchant, et un autre livre, celui qui est le livre de vie, fut ouvert. Et l'épouse était là pour le juger. Voyez? Voyez? Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Là, il y a les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Voyez? Ces gens qui étaient morts là-bas, ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion, ce sont eux qui seront mis à part. Mais remarquez maintenant, séduire même les élus. Observez ce groupe. Voilà le groupe qui suit tout bonnement. Oui, frère. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Et là, au fond de vous, vous savez pourquoi il se donne tout ce mal avec vous. C'est pour vous avoir à l'église. Pourquoi? Afin d'attirer une foule pour dépouiller les gens de leur argent, tout ce qu'ils peuvent leur soutirer. Vous pensez que j'ignore cela? Peut-être ignore-t-il que je le sais, mais je le sais. Jésus savait dès le commencement qui était l'imposteur. Voyez, voyez. Mais qu'a-t-il fait? Il a simplement attendu ce moment-là. Voilà ce que nous devons toujours faire, attendre ce moment-là. Ne vous avancez pas de vous-même. Attendez jusqu'à cette minute-là. Ayant une, l'apparence, il continue comme ça. Voilà ce groupe d'imposteurs. Observez cet imposteur, ce groupe-là. Il ne s'agit pas du croyant, pas de l'incroyant, mais de ce soi-disant croyant. Oh là là, que font-ils? Ils continuent tout bonnement jusqu'à ce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose. Ils dépouillent les gens de tout l'argent qu'ils peuvent leur soutirer. Voyez, puis ils empilent tout cela dans ces immenses organisations. Ils sont absolument contre et ils le savent. Voyez, ils le savent. Peu importe ce que vous dites, ça ne fait aucune différence. Ils mettent toujours les gens en garde avant votre arrivée. N'écoutez pas cela. Un homme a eu l'audace de se tenir là, en Ohio, au moment où Frère Kidd avait été guéri. Il est venu là-bas sur l'estrade et a dit, « Bon, Frère Branham est un prophète, ça ne fait aucun doute, quand il est sous l'onction. » Seulement, voilà, il a dit, quand l'onction n'est pas sur lui, il a dit, « N'allez pas croire son enseignement, parce que c'est faux. » Et il ne savait pas que pendant que j'étais assis dans mon bureau, le Seigneur m'avait révélé cela. Alors j'y suis allé, et bon nombre d'entre vous étaient présents. Et j'ai dit, pour quelle raison un homme dirait-il une telle chose? Alors que la parole, bon, voyez, je n'avais pas dit que j'étais un prophète, c'est lui qui l'a dit. Et le prophète, le mot prophète, un voyant dans l'Ancien Testament. Maintenant, la version anglaise de prophète signifie prédicateur. Mais le voyant de l'Ancien Testament était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole. Et la parole qui venait à lui et ce qu'il pouvait voir d'avance prouvait ce qu'il était. C'était ce qui, un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas là un moyen détourné pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera? L'heure est proche où cette chose sera dénoncée ouvertement. Oui, mais voilà, c'est cette sorte-là, c'est ce soi-disant croyant. Il vous passe la main dans le dos, vous appelle frère, comme Judas. Mais souvenez-vous, il savait dès le commencement. Encore aujourd'hui, il sait. Oui, monsieur. Souvenez-vous-en, et tous ceux qui écoutent cette bande aussi. C'est vrai, vous appartenez à l'une de ces catégories. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous allons terminer. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute cette bande, et même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. C'est vrai, voyez, vous appartenez à l'une de ces catégories. Forcément que vous appartenez à l'une d'entre elles. C'est exact. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous appartenez à l'une de ces catégories. Alors, qu'en est-il? Identifiez-vous un personnage biblique qui a cru, alors que vous avez cru la parole au moment où elle a été confirmée. Et c'est ce que j'ai démontré ce soir, qu'il s'agissait toujours d'une parole confirmée et qui allait toujours à l'encontre de la croyance populaire. Si vous aviez vécu au jour de Noé, permettez-moi de vous poser cette question. Dans quel camp auriez-vous été? Dans le camp de l'Église ou dans le camp de Noé, du prophète? Voyez, si vous aviez vécu au jour de Moïse, auriez-vous cru au message de Moïse après qu'il avait été prouvé et confirmé par Dieu? Ou, au contraire, auriez-vous suivi Corée et Dathan et les autres en disant, « Tu n'es pas le seul homme saint, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent faire ces choses que tu fais. » Voyez, vous auriez forcément été l'un ou l'autre, et c'est ce que vous êtes ce soir. Ou bien, auriez-vous été avec Daniel, ou avec l'église qui était là-bas à la soirée de Nebuchadnezzar? Voyez, auriez-vous été dehors, ou bien là-bas dans cette fiesta, à participer à leur grand événement? Auriez-vous été avec Élie, cet homme qui se tenait seul, qu'on qualifiait de vieux détraqué, homme qui a perdu la tête, qui se tenait au sommet d'une colline, le crâne luisant au soleil, un bâton tordu à la main, nourri par des oiseaux, un fêlé? Ou bien, auriez-vous été avec les prêtres et tous les autres là-bas qui étaient avec Jézabel et ses autres femmes habillées à la mode? Et Élie, qui se tenait là-haut, en train de les réprimander de toutes ses forces. Dans quel camp auriez-vous emmené votre femme? Pensez-y, imaginez-vous dans cette situation ce soir. À l'époque de Jésus, auriez-vous été avec ce jeune homme qui n'avait aucune référence? Il n'était affilié à aucune dénomination. Les gens disaient, « De quelle école sors-tu? Tu ne figures sur aucun de nos registres ici. D'où te vient cette sagesse? Comment as-tu pu apprendre ces choses si nous te les avons jamais enseignées? À quelle école es-tu allé? Es-tu méthodiste, presbytérien ou baptiste? » Il n'était rien de tout cela. C'est vrai, il était la parole. C'est tout à fait exact, frère. Vous, où vous seriez-vous rangé du côté des pharisiens à la croyance moderne du bon vieux sacrificateur, cet homme humble qui avait l'air si doux et gentil, et de cette organisation qui a vu le jour depuis le concile de Nicée, ou depuis que Luther l'a organisé? Ou dans quel groupe auriez-vous été? Auriez-vous été... Avec quel groupe auriez-vous été? Auriez-vous été du côté de la parole quand vous l'auriez vu être confirmé et qu'il vous aurait été démontré quel était le message du jour? Ou bien auriez-vous adopté la position de l'Église? Ce soir, essayez simplement de vous imaginer là. Auriez-vous été là avec les apôtres quand ils ont vu Jésus et toutes ces choses mystérieuses lorsqu'il a réprimandé ses prédicateurs et qu'il a dit « Vous êtes un nid de vipères !» Ces bons vieux prédicateurs honnêtes qui avaient étudié cette parole. Il a dit, « Vous n'êtes rien d'autre qu'une caverne de voleurs, et vous êtes plein d'ossements de morts. Vous n'êtes rien d'autre qu'une muraille blanchie. » Voyez ? Génération de vipères. Auriez-vous été du côté d'un homme au tempérament impétueux qui s'est tenu là, qui parlait sévèrement et faisait des ravages? Il a dit, « Lequel d'entre vous peut m'accuser de péché si je ne fais pas ce que le Père a dit ?» Eux, ils ont dit, « Ne l'écoutez pas, ce gars-là a un mauvais esprit sur lui, il est dérangé, il est fou, il a sur lui l'esprit du diable. » Voyez? Bon, c'est comme cela qu'il fait ces choses, c'est un esprit de divination qu'il a en lui. Vous dites, « Qu'est-ce qu'il est ?» Sa mère l'a eu avant qu'elle et son mari soient mariés. Voyez, à quelle école est-il allé? Nulle part. Il nous a fait mention qu'il soit allé à l'école primaire. Et pourtant, quand il avait 12 ans, il a étonné, confondu les sacrificateurs avec la parole de Dieu. Voyez, de quelle école venait-il? L'école d'en haut. Voyez, quand vous verrez le Fils de l'homme descendre de là où il était auparavant. Voyez, c'était ça son école. Mais auriez-vous été du côté des apôtres, aux côtés d'un tel homme, au moment de la confrontation? Ou seriez-vous en fait parti avec les 70 autres en disant, « Eh bien, nous allons retourner à notre église, si c'est comme ça que tu vas enseigner, disant que toi, tu es le Fils de l'homme. Alors, après tout, qui es-tu? Qui es-tu donc? Un homme comme moi, je mange avec toi, et tu cherches à prétendre que tu es quelqu'un. Je t'ai observé, j'ai vu ta faiblesse, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu faire ceci, cela ou autre chose. Eh bien, je t'ai vu aller dans le désert avec nous, et toutes ces choses-là, et tu n'es qu'un homme, et tu dis que tu es descendu du ciel. C'en est trop pour moi. Auriez-vous suivi ces gens-là, ou seriez-vous parti avec les 70? Ou alors, auriez-vous marché avec les apôtres et Christ? Quand Saint Martin a essayé de maintenir le baptême au nom de Jésus-Christ dans l'Église, quand il a essayé de maintenir les signes et les prodiges et ces choses, et que l'Église catholique a condamné cet homme et n'a absolument pas voulu le reconnaître, elle a chassé, vous seriez-vous rallié au credo catholique? Auriez-vous été du côté de Saint Martin? Quand il a refusé d'accepter toutes ces sortes de statues de morts et de les adorer, d'adorer ces statues et tout le reste, quand il a refusé les dogmes qui avaient été ajoutés, il a dit que la parole soit la vérité. Et Dieu l'a confirmé avec de grands signes et prodiges. Et les choses qu'il prédisait arrivaient. Et tout ce qu'il faisait, il marchait dans l'Esprit de Dieu et le prouvait. Et aucun de ses prêtres ou toute autre chose ne pouvait rien y changer. Auriez-vous pris parti pour Saint Martin et marché avec lui, ou auriez-vous adopté le credo catholique? Maintenant la parole de Dieu ou les dogmes de l'Église, voilà ce qu'il y a devant vous. Pouvez-vous prendre, accepter ce que disent les dogmes de l'Église, ou acceptez-vous ce que dit la parole? Souvenez-vous, il en était dans tous les âges comme il en est maintenant même. Il y a toujours parmi les gens une croyance populaire, et elle a toujours été un peu contraire à la vraie parole. Souvenez-vous, il n'a jamais été question de la nier complètement. Oh non, l'Antichrist ne nie pas la parole, certainement pas. Il prétend y croire, mais simplement pas dans sa totalité, telle qu'elle est écrite ici. Voyez, Satan a parlé à Ève. Ève a cru toute la parole, sauf cette petite partie qu'il lui a dite. Les gens croient tout de cela, sauf une petite partie. Peut-être avancer vers le baptistère, ou peut-être autre chose. Vous devez l'accepter, en accepter chaque partie, exactement telle qu'elle est écrite ici. Voyez, exactement telle qu'elle est écrite ici. Ça vous poussera peut-être à pratiquer de nouveau vos premières œuvres. Mais ce que dit la parole, c'est tout ce qui compte. Ça a été la ruse de Satan depuis qu'il l'a employée pour la première fois avec Ève. Ne mettre en doute qu'une petite partie de la parole. Et elle fait toujours la séparation entre ces trois catégories de gens. La parole fait la séparation entre ces gens. Ça a été le cas dans chaque âge. Dans chaque âge qu'il y a jamais eu, ça a été le cas. Lorsque Dieu envoie quelque chose sur la scène et qu'il identifie clairement cela, sa parole. Et il y a ceux qui suivent, qui disent être des croyants et qui le sont. Il y a ceux qui ne rebroussent pas chemin. Ils croient la parole. Aussi longtemps que vous restez dans la parole, ils croient cela. Mais lorsqu'elle va un peu à l'encontre de leur croyance, peu importe à quel point Dieu identifie cela, ils disent « Eh bien, je ne suis vraiment pas sûr de ça. » Voilà l'incroyant. Ou alors, vous suivez tout bonnement jusqu'à ce que vous ayez l'occasion de dire « Ah ah, nous y voilà !» Un Judas prêt à poignarder quelqu'un dans le dos comme il l'avait fait. Je savais que tôt ou tard, on finirait par le découvrir. Nous y voilà. Ça, c'est le soi-disant croyant. Tout ça, en tout point, on le voit dans la Bible. Il y avait un petit garçon, une fois, qui avait été élevé dans les montagnes là-bas au Kentucky. Il ne s'était jamais trouvé près d'un miroir. Ils avaient un petit bout de miroir accroché à un arbre, mais lui, il n'avait jamais vu son reflet. On raconte qu'il était venu ici, à Louisville, rendre visite à la sœur de sa mère. Et elle vivait dans l'une de ses belles maisons, une maison ancienne. Quand ils sont allés dans l'une des chambres dont la porte avait un miroir, il recouvrait toute la surface de la porte, voyez. Et alors que ce petit garçon a commencé à courir partout dans la maison, il s'est arrêté. Le petit Johnny a vu le petit Johnny, voyez. Et il s'est gratté la tête. Et le petit Johnny, dans le miroir, s'est gratté la tête. Il a ri. Et le petit Johnny, dans le miroir, a ri. Il a sautillé. Et le petit Johnny, dans le miroir, a sautillé, voyez. Il s'est approché de plus près. Il pensait qu'il s'agissait d'un petit garçon avec qui il pourrait jouer. Il s'est donc approché. Là, il a frappé légèrement le miroir. Il s'est retourné et ses parents l'observaient. Il a dit, « Maman, c'est moi !» Regardez-vous maintenant là-dedans. Lequel êtes-vous? Lequel de ces petits Johnny imitez-vous? Lequel êtes-vous? Voyez-vous, vous êtes l'un de ceux-là. C'est l'un de ceux-là, quelqu'un qui ferait demi-tour dès que vous trouvez la moindre faille. Cette chose que vous qualifiez de faille. Voyez, testez cela avec la parole et voyez si c'est en ordre, si c'est la parole qui éprouve toute chose. Voyez, éprouvez toute chose par la parole. Jésus a dit de faire cela. Oui, monsieur, retenez ce qui est bon. C'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, examinez-vous dans le miroir de la parole de Dieu, dans les autres âges, et voyez dans lequel de ces trois groupes vous auriez été identifié. Eh bien, pensez-y. Si vous aviez vécu à l'époque de Noé, si vous aviez vécu à l'époque de Moïse, si vous aviez vécu à l'époque de Jésus, ou de l'un d'eux, quel qu'il soit, pensez à quel groupe vous vous identifieriez. Réfléchissez-y ce soir. Alors, votre état actuel, eh bien, pensez-y maintenant. Ça, c'est profond. Ne prenez donc pas la chose à la légère. Votre état actuel, en ce moment même, c'est ce qui vous prouve à quel groupe vous vous seriez associé à cette époque-là. Maintenant, vous êtes votre propre juge. Voilà la preuve de ce que vous êtes. Monsieur le révérend, monsieur le ministre, à quel groupe vous seriez-vous associé lorsque Jésus a fait cette déclaration qui était difficile à croire? Lequel? Lequel? Après qu'il a été parfaitement identifié comme étant la parole. Voyez? Et pourtant, cette déclaration, on n'a jamais rien entendu de pareil. Le Fils de l'homme, que direz-vous quand vous le verrez monter au ciel d'où il est venu? Et vous dites, eh bien, je connais le lieu où il est né. Je connais son père. Je connais sa mère. Et voilà qui dit qu'il va monter là-haut d'où il vient. Ça, ça aurait été un peu trop pour vous, n'est-ce pas, monsieur? Oui, ça aurait été un peu trop fort pour vous. Vous n'auriez pas pu digérer cela. Peut-être est-ce la même chose aujourd'hui. Alors examinez-vous dans le miroir de la parole de Dieu et voyez votre position. Oh, un imposteur, ne faites jamais une telle chose. Regardez, vous appartenez à l'une de ces catégories. Votre état actuel en ce moment même, votre état d'esprit actuel, à vous qui êtes ici, dans cet auditoire visible, et vous, l'auditoire invisible, qui écouterez cette bande, votre état d'esprit actuel, après avoir écouté cette bande, c'est ce qui vous prouve la catégorie dans laquelle vous êtes. Cela vous dit exactement où vous en êtes. Si vous êtes un croyant dans la parole, et que vous resterez attaché à elle, ou si vous partirez, ou que vous arrêterez cette bande. C'est ce qui indique ce que vous avez fait. Vous ne voulez pas l'écouter et vous faites taire cela. Vous dites, je ne veux pas écouter ça. Voilà, ça, c'est cet incroyant. Voyez, vous ne voulez pas prendre le temps de mesurer la chose pour voir s'il s'agit bien de la vérité. Voyez, ou vous restez là en essayant d'y trouver des failles. Là aussi, vous savez où vous en êtes. C'est ce qui vous l'indique. Que Dieu nous aide à croire cela, à nous en tenir à cela, à être fidèles à cela et à obéir à la parole, car il est la parole. Le croyez-vous? Alors, prions. Cher Père Céleste, comme il est difficile parfois de dire ces choses, sachant qu'il y aura peut-être des dizaines de milliers de gens qui entendront cela sur la bande, comme elles iront partout dans le pays et qu'elles feront le tour du monde. Néanmoins, cher Seigneur, ces choses sont vraies, elles sont tellement vraies. Je te prie, Seigneur, de purifier d'abord mon cœur. Éprouve-moi. Mets-moi à l'épreuve, Seigneur. Abaisse le regard sur moi, Seigneur. Je suis affaibli. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Ma voix est enrouée. Mes lèvres sont comme desséchées. Et mon corps s'épuise. Je prends de l'âge. Et il ne me restera plus beaucoup de jours, Seigneur. Peut-être plus beaucoup de révolutions du soleil avant que je parte. À présent, examine-moi maintenant, ô Père. Et s'il y a une chose que je fais qui est une erreur et que je l'ignore, toi, Seigneur, révèle-le-moi. Toi, montre-le-moi. Je suis prêt à mettre cela en ordre maintenant. Je me regarde là, dans le miroir de la parole de Dieu. Où est-ce que je me tiens? En me regardant, est-ce que l'image que je vois reflète Jésus-Christ? Est-ce là le personnage que je vois dans le miroir? Est-ce que je vois l'un des croyants de l'Ancien Testament ou l'un des croyants du Nouveau Testament? Est-ce que je vois un soi-disant croyant? Est-ce que le reflet que je vois de moi-même est celui d'un incroyant qui ne voudrait pas rester là, écouter la parole et qui accepterait plutôt une idée dénominationnelle? Est-ce que je me vois là, en train d'essayer de trouver la moindre faille? Seigneur, si c'est le cas, lave-moi. Vraiment, vraiment, Seigneur. Que mon cœur soit lavé et qu'il soit pur. Car il s'agit de ma vie, Seigneur. Je veux qu'elle soit en ordre. Inutile de faire les choses à moitié, s'il existe un moyen de bien faire les choses. Moi, je veux que tout soit bien arrangé, Père. Non seulement cela, mais j'induirai des hommes en erreur et des femmes en erreur, ainsi que les gens que j'aime et qui m'aiment. Alors, j'aurais tort de faire cela. Ainsi, Père, s'il y a quoi que ce soit, si ce soir, je pensais qu'une quelconque église dénominationnelle avait raison, ou que le conseil des églises avait raison, que la majorité des gens avaient raison, Seigneur Dieu, aide-moi à être assez homme et assez chrétien pour reconnaître mes torts et me tenir ici et diriger ces gens vers ce que je crois être juste. Purifie-moi, permets que je regarde et que je vois. Mais quant à ces choses, d'après ce que je peux voir, Seigneur, ils ont ces apparences, mais nient la parole. On peut leur dire, et malgré cela, ils disent, « Eh bien, cela ne fait pas la moindre différence. Ça, Dieu ne s'attend pas à cela maintenant. Seigneur, je crois que tu es le même Jésus. » Tu es le même Dieu que tu as toujours été. Tu es toujours Dieu et tu ne changes pas. Je crois que cette Bible est ta parole. Et je crois que toi est ta parole. C'est la même chose. Et, ô Dieu, je te prie de bien vouloir nous donner ton Saint-Esprit pour vivifier la parole, pour nous donner la puissance vivifiante, afin qu'un jour, quand la vie sera terminée et que tu en auras terminé avec nous, que nous soyons vivifiés pour monter au ciel, là où nous étions, dans les pensées de Dieu, avant la fondation du monde. Accorde-le, ô Dieu. Pardonne nos péchés, Père. S'il y a ici des hommes et des femmes qui se trouvent dans cette catégorie différente que celle des véritables croyants dans la parole, ô Dieu, purifie leur cœur. S'il y a des gens qui sont en train d'écouter cette bande ou qui l'écouteront, je prie pour la purification de leur cœur. Puisses-tu les purifier, Seigneur? Je ne veux pas les voir perdus. Ô Dieu, je te prie de bien vouloir nous aider à comprendre qu'on ne réparera jamais un tort par un autre tort. Il n'existe qu'une seule façon de faire, c'est d'écarter ces deux torts du chemin et de se mettre en règle. Et je te prie, ô Père, de bien vouloir nous accorder cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec nos têtes inclinées, nos cœurs inclinés, je veux maintenant que vous vous arrêtiez quelques instants. Quand j'ai vu la vision de l'enfer, alors que j'étais un petit garçon, j'ai vu l'horreur de cela. Eh bien, je peux me tromper à ce sujet. Ce n'était peut-être qu'une prémonition. Probablement, je ne sais pas. Il semblait que j'étais quelque part. La chose était si réelle. Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu la dimension des bénis. Quand j'étais dans la dimension des perdus, j'ai crié, « Oh Dieu, ne laisse jamais personne venir ici. Vous ne pouvez pas. Aucune langue ne peut décrire l'horreur de ce lieu. Il n'y a aucun moyen pour moi de vous raconter cela. Si vous croyez qu'il existe un enfer qui brûle, rempli de feu et de soufre, ça, ce serait de verts pâturages, plein de fraîcheur, à côté de ce qu'était l'horreur de cet état de perdition et le malheur qui est associé à cet endroit. Et si je m'efforçais de vous parler de choses qui dépasseraient l'entendement humain, là encore, il me serait impossible de vous décrire le lieu des bénis. À quel point c'est paisible. On ne meurt jamais, on ne vieillit jamais, on ne tombe jamais malade, on est toujours jeune, on est toujours en bonne santé et on ne meurt jamais. La vie éternelle, dans une jeunesse bénie, sans péché ou quoi que ce soit d'autre. Oh, il n'existe aucun moyen de décrire cela. Même Saint Paul a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. On ne peut même pas les comprendre. Il est impossible de les expliquer. Ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Et alors, comme ceci est certainement la vérité, ici et pour l'auditoire invisible, ce soir, nous sommes représentés ici dans l'une de ces catégories. Soit nous sommes de véritables croyants, et prouvez cela par la parole. Si la parole dit une certaine chose et que l'Église dit autre chose, pourquoi opterez-vous? Regardez dans le miroir de la parole de Dieu et voyez dans quelle catégorie vous vous trouvez. Et ce soir, si vous n'êtes pas ici et dans l'auditoire invisible, si vous ne faites pas partie de la catégorie des croyants, puis-je adresser un mot de prière en votre faveur maintenant pour que vous entriez dans cette catégorie des croyants? Voudriez-vous alors signifier la même chose à Dieu? Avec la tête inclinée, votre cœur incliné et vos yeux fermés devant Dieu. Parfois les gens ont un peu peur, vous savez, de lever la main. Ils ont peur que la personne à côté d'eux, alors qu'en fait, ils ne devraient pas être comme cela. Ils devraient plutôt vouloir se lever et dire, j'ai tort. Celui qui cache son péché ne prospère point, mais celui qui confesse son péché obtient miséricorde. Voyez, le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? La parole. Or, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, il y a des choses que vous voyez dans la Bible et vous ne pouvez simplement, avec votre intellect, vous ne pouvez pas les saisir. Vous savez que la Bible a dit, mais vous ne pouvez pas le comprendre et pourtant vous le voulez. Vous dites, « Oh Dieu, donne-moi l'intelligence, je t'obéirai. » Voulez-vous lever la main et dire, « Ayez une pensée pour moi pendant que nous prions. Que Dieu vous bénisse. » C'est bien. Voyez, réfléchissez-y vraiment. Y a-t-il quelque chose dans la Bible que j'ignore? J'ai bien peur de me retrouver dans l'une de ces autres catégories. Peut-être que je me retrouverai avec les 70. Il y a simplement certaines choses que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Comment Dieu ferait ces choses? Comment il pourrait être? Comment Jésus pourrait être le même? Comment de ces choses? Je ne comprends pas cela. Je veux le comprendre. Je veux le croire. Et Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Je veux faire partie de cela. Je veux être participant de la parole. Je la veux en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 15, nous savons que c'est vrai. Regardez, si vous demeurez, pas si vous êtes en dedans et en dehors, mais si vous demeurez en moi, et il est la parole, et qu'elle demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. Vous le verrez s'accomplir. Celui qui reçoit mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé est déjà passé de la mort à la vie. Mais pouvez-vous premièrement recevoir la parole? Pouvez-vous recevoir la parole, toute la parole, Christ en entier? Christ est la parole ointe. Il est la parole ointe. Christ veut dire le oint, la parole ointe pour ce jour-là. Manifesté, le Sauveur, le Rédempteur. Ça, c'est le moment où il devait venir. Il était cette personne ointe qui devait prendre cette place-là. Maintenant, c'est le Saint-Esprit dans les derniers jours qui doit faire briller les lumières du soir afin de rétablir la foi. qui étaient foulés aux pieds par les dénominations, de condamner les dénominations et faire revenir la foi originelle avec la foi biblique originelle, la Bible originelle, en croire chaque parole, ne rien ajouter pour lui faire dire ceci et cela. Dites-le simplement comme elle le dit. Et c'est comme ça qu'on veut la croire. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore levé la main? Quelqu'un qui voudrait lever la main pour dire, « Oh Dieu, souviens-toi de moi. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Que Dieu vous bénisse. Et vous, très bien. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je le désire. Que Dieu vous bénisse, sœur, là, à ma droite. Qu'il vous bénisse, vous, à l'arrière. Je désire. Et que Dieu vous bénisse, jeune homme. Et vous ici, sœur. Vous, frère, de l'autre côté, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous, à l'arrière. Souviens-toi de moi, Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas vers moi que vous levez votre main, c'est vers lui, là, tout juste derrière moi. Le Seigneur voit votre main, même si, moi, je manque de la voir. Lui, il la voit. Il connaît votre cœur, il sait ce qui vibre là, il connaît votre objectif. Il sait quel est votre motif pour cet objectif. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre, je veux croire toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Très bien, que Dieu vous bénisse. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur voit vos mains. Oui, monsieur, voilà, c'est ça. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Je ne veux pas être un incroyant. Même si je ne comprends pas ces choses, je veux y croire quand même. Je suis prêt à dire, Seigneur Dieu, me voici. Je veux croire. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup, beaucoup de mains levées et d'autres continuent de se lever. Vous dites, Frère Branham, est-ce bien nécessaire? Levez la main une fois, en ayant un objectif juste et vrai, et voyez quel est votre sentiment là-dessus. Vous avez témoigné qu'il y a un petit quelque chose dans votre vie. Vous savez, il y a un petit quelque chose. Vous ne voulez pas que ce soit là, mais ça se trouve là quand même. Vous vous demandez comment cela a pu se faire. Eh, Seigneur, garde-moi d'être un Judas. Garde-moi de suivre un message juste pour m'imaginer qu'un jour, peut-être, j'y décèlerai une petite faille. Oh Dieu, pas moi, que je m'en tienne strictement à ta parole. Voyez, ou peut-être suis-je un incroyant qui pense tout simplement, eh bien, si, pourquoi les autres ne disent-ils pas ces choses? Voyez, je ne veux pas non plus être comme ça. Je veux être un croyant. Je le veux. Je vois la parole de Dieu de l'heure. Je vois Dieu dans cela. Et Seigneur, fais de moi une partie de cette parole. Fais de moi une partie de cela. Je veux en faire partie. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, prions. Et vous tous, priez pour vous-même. Et je vais prier pour vous. Savez-vous qu'un jour, nous ne serons pas ensemble, ici peut-être, pendant quelque temps. Certains d'entre nous seront emportés, et nous ne serons plus ensemble. Beaucoup d'entre nous ici qui, certains d'entre nous prennent de l'âge, certains d'entre nous, nous ne savons pas. Même les jeunes meurent. On meurt à tout âge. Nous devons être séparés, et cette chose doit être réglée. Vous ne pouvez pas y arriver comme ça, par hasard. Vous devez venir pendant que vous avez toute votre raison. Vous dites, « Eh bien, si je vois cela juste avant ma mort... » Non, ne faites pas ça. Vous n'aurez peut-être même pas toute votre tête à ce moment-là. Vous serez peut-être tué dans un accident avant d'arriver chez vous. Vous mourrez peut-être d'une crise cardiaque. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Dieu seul le sait. J'espère que ce ne sera pas le cas. Je vois les gens par la fenêtre, même là-dehors, ils lèvent les mains. Voyez, oui, que Dieu vous bénisse. Je veux marcher droit. Je veux marcher droit. Et maintenant, mettons les choses en ordre. Maintenant même. Voilà, vous pouvez régler cela une fois pour toutes, si cela vient du fond de votre cœur. Si vous dites avec sincérité, Seigneur Jésus, quoi qu'il arrive, ou quoi que l'on dise, ta parole aura la première place dans ma vie. Je la veux dans ma vie. Tu es la parole. La Bible dit, et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et je sais que les credos et les dogmes qui ont été injectés ont créé un tas d'hypocrisie. Seigneur, purifie-moi de ce genre de choses-là et que je sois entier à toi. Je lève les mains vers toi, je lève mon cœur vers toi, ma voix vers toi, ma prière vers toi. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et mes mains aussi sont levées, Seigneur. Purifie-moi, ô Seigneur, de toute incrédulité. même s'il ne me donne peut-être pas la puissance de marcher comme Enoch, de ne pas avoir à mourir, de simplement faire une promenade en après-midi et rentrer à la maison avec lui. Cependant, ô Dieu, je crois vraiment que ça se produira, parce que je sais qu'il y aura un enlèvement au dernier jour et que l'œuvre sera abrégée. Et Père, c'est ce que dit notre calendrier. Encore 36 ans et l'œuvre sera terminée. Et tu viendras sûrement pendant cette période de temps-là, sinon nulle chair ne sera sauvée. Et les chronologistes et les gens qui font ce genre de recherche nous apprennent que nous sommes vraiment plus loin de beaucoup, beaucoup d'années. Et bon nombre d'années se sont déjà écoulées. Ils nous apprennent par leur calendrier que nous sommes bien plus loin que ça. Il ne nous reste peut-être que 15 ou 20 ans. Je ne sais pas, ô Père, mais je sais que, même d'après notre calendrier, nous y sommes presque. Je vois qu'il n'y a plus d'espoir, Seigneur. Il vient, s'ils se mettent à lâcher ces bombes, les uns sur les autres, Seigneur, il n'y aura pas de front de bataille. Ils se détruiront les uns les autres. Et Seigneur, c'est déjà là. Et pourtant la Bible déclare que les cieux et la terre tout entiers seront enflammés. Ô Dieu, je vois cette heure approcher. Je pense à l'assassinat du président. Et alors je vois cet autre homme malveillant s'avancer là, sans laisser à cet homme-là la possibilité d'être jugé. Il lui a tiré dessus et l'a abattu de sang-froid. Ô Dieu, ils sont tout aussi coupables l'un comme l'autre. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Le mal dans notre propre nation, qui est censée être une nation chrétienne, quel piètre exemple du chrétien nous sommes, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, ton Église en particulier, ceux qui sont baptisés pour former le corps mystique de Christ. En effet, c'est l'Esprit qui vivifie, tu l'as dit. Et de même que le Fils de l'homme est monté, son corps aussi montera. Et il est la tête. Son Église est le corps. Ô Dieu, c'est la tête qui dirige le corps. Que le chef, la parole, guide le corps de Christ. Et que je sois une partie de ce corps, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont levé les mains, et tous ceux qui sont présents, et tous ceux qui suivront les bondes. Seigneur Dieu, je prie avec sincérité. Accepte-les, Seigneur. Regarde à leur cœur. Tu sais ce qu'ils sont, mais en tant que ton serviteur, j'intercède pour ces gens, Seigneur. Je les aime. Et j'essaie simplement de faire ceci parce que je considère que tu m'as donné la commission de le faire. Ainsi, Père, me voici. Je fais de mon mieux avec. Pardonne mes faibles erreurs, Seigneur. Je te prie de bien vouloir m'accorder la force pour que je puisse rendre les choses plus claires pour les gens. Maintenant, sois avec nous dans ce tabernacle ce soir. Abaisse ton regard sur ces gens, Seigneur, ceux qui ont levé les mains dans le tabernacle. Sonde-moi, ô Seigneur, éprouve-moi. Et si, en moi, il y a quelque chose qui ne va pas, purifie-moi, Père, accorde-le. Purifie cette Église. Purifie-nous tous, Seigneur, afin que la parole devienne chère parmi nous et qu'elle se révèle au monde en ce jour-ci. Accorde-le, Père, car je remets ceci, ainsi que moi-même et ce sujet, cet auditoire, ainsi que ta parole et ta promesse, pour le salut de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, que la puissance de Dieu descende sur nous et nous oigne chacun de nous, du pasteur au concierge et chaque personne présente. Que le Saint-Esprit vienne et prenne sa place dans notre cœur et qu'il prenne chaque promesse de Dieu et nous révèle que ta parole est la vérité. C'est au nom de Jésus que je prie. Et pendant que nous avons la tête inclinée, la voix, j'aimerais que l'organiste, si elle le veut bien, nous donne la note pour ce chant. La voix du Seigneur m'appelle. Où il me conduira, j'irai. Où il me conduira, j'irai. Du Seigneur m'appelle. Qu'est-il? La parole. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Maintenant, rejetez vos dogmes et ces choses. Prends ta croix et viens. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être appelé mon disciple. où il me conduira. À la Bible, voilà où il te conduira. J'irai où il me conduira. J'irai. Où il me conduira, j'irai. Que ce soit vers le baptistère en son nom, que ce soit vers l'autel pour me débarrasser de ma honte, jusqu'au bout. Lui, au jugement. C'est ça, à l'instant même. De quel côté êtes-vous? Que voyez-vous de votre reflet dans la Bible, le miroir de Dieu, si, en ce moment, je suis jugé par la parole? Je suivrai la parole, coûte que coûte. Je passe maintenant par les jugements de Dieu. Si je dois choisir un des camps, fais de moi un croyant en toute la parole. Avec lui, jusqu'au bout. Car où il me conduira, réfléchissez-y attentivement maintenant. Il me conduira.